sur disque compact Arion. À 21h30, tout à l'heure en direct, le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau, et tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 21 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony. En l'absence de notre ami Bernard Anthony, directeur de Reconquête, directeur du Centre Charlier, de la Griffe et de toutes autres associations dont nous parlerons ce soir, eh bien c'est moi, Jeanne Smith, directeur de Présent, qui mènerai cette émission. Mais rassurez-vous, Bernard Anthony sera avec nous. Nous lui téléphonerons tout à l'heure car il a un certain nombre de répliques à faire. L'émission de la réplique restera fidèle à sa formule. Vous avez avec nous dans le studio David Fontay.
Bonsoir.
Vous avez également Richard Haddad.
Bonsoir Jeanne.
Et peut-être d'autres nous rejoindront-ils pour parler de l'actualité brûlante. Nous regrettons par ailleurs l'absence de Cécile Montmirail, qui aurait bien voulu être là, mais qui est retenue. Donc, nous allons commencer un petit peu sur les chapeaux de roue, puisque on parle beaucoup de réchauffement de la planète, Richard Haddad, mais il faudrait plutôt parler d'un réchauffement islamique de la planète, et je sais que vous organisez très prochainement, le 31 mars, un colloque. Alors, Richard Haddad, où cela se passe-t-il et pourquoi ?
Alors, nous organisons avec Chrétienté et Solidarité un colloque sur l'islam, dont le titre sera « Quelle politique face à l'islam en France et en Europe ?». Ce colloque aura lieu le samedi 31, donc pas ce samedi, le samedi d'après, 31 mars, à Paris, 6 rue Albert de Lapparent, dans le 7e arrondissement, de 10h à 18h. Alors, pourquoi ce colloque ? Parce que nous nous sommes rendus compte que dans cette campagne présidentielle, le sujet l'islam n'est pas traité. C'est-à-dire que on traite plus souvent de l'immigration, ce qui n'est pas la même chose, mais pratiquement jamais de l'islam. Et lorsqu'on l'évoque, c'est de façon très succincte, sans donner vraiment de solution ou proposer une politique concrète sur le sujet. Donc c'est un sujet tabou. Aucun des candidats, ne le traite de façon sérieuse. Or, ce sujet-là intéresse énormément le français, et je sais de quoi je parle puisque je suis éditeur, et je peux vous dire que les livres qui se vendent le plus aujourd'hui, ce sont les livres qui traitent de ce sujet-là, de l'islam. Ça prouve que ça intéresse de plus en plus les Français, qui connaissent très mal le sujet, qui connaissent mal cette religion, qui n'est pas qu'une religion d'ailleurs, et encore moins, cette religion qui est encore moins connue de nos hommes politiques, ce qui est encore plus grave. Tous, sans exception.
Tous sans exception, y compris Jean-Marie Le Pen ou Philippe de Villiers, diriez-vous ?
Oui, je dirais qu'ils traitent le sujet plus que les autres, certainement, mais ils ne le maîtrisent pas. C'est-à-dire que par exemple, ils confondent souvent islam et nations arabes, ils confondent souvent islam et immigration, mais ils ne connaissent pas les coutumes, le dogme de l'islam, qui n'est pas qu'une religion, c'est un système social, c'est un mode de vie d'une nation, c'est la Oumma. Donc l'islam est une nation islamique. Et comme toute nation, elle a ses règles, ses coutumes, sa culture, etc. Donc, y compris, oui, effectivement, Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen traitent l'islam comme une simple religion, comme la religion catholique. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. On ne peut pas parler d'islam comme on parle des chrétiens ou des juifs. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas une critique, c'est une critique positive, hein, ce n'est pas attaquer ni les uns ni les autres. Donc nous, justement, ce que l'on propose dans ce colloque, alors interviendront là des éminents spécialistes du sujet, et donc la proposition, le colloque servira non seulement à faire des constats, ça on les fera rapidement, mais surtout de faire des propositions concrètes. Quelle politique face à tout ce que peut provoquer l'islam en France et en Europe ?
L'idée étant donc bien de dire que la politique ne peut pas être la même à l'égard du christianisme ou du
Absolument.
Judaïsme que de l'islam.
Absolument.
Mais ça, c'est, je pense que c'est fondamental.
Il y a une politique à proposer, à faire, à appliquer. Et nous la proposerons, nous publierons une charte à la fin de ce colloque qui sera la synthèse des interventions sur des 4-5 thèmes différents, et nous proposerons cette charte aux candidats pour qu'ils se positionnent dessus, pour nous dire exactement ce qu'ils en pensent. Parce que comme c'est un sujet tabou, personne n'a envie, en réalité personne n'a envie non plus de se prononcer sur le sujet. Non seulement ils le connaissent mal, mais ils n'ont pas envie de se prononcer dessus. Donc on va leur proposer cette charte, on va bien voir quelle sera leur réaction, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc interviendront à ce colloque Louis Chagnon, professeur d'histoire, auteur d'un livre sur les conquêtes arabo-musulmanes, René Marchand, qui traitera de l'islam, une nation à part entière. Donc la coexistence est-elle possible ? Il va nous parler de ça.
Je crois que René Marchand a signé deux livres très importants sur l'islam.
Deux livres aussi. Le dernier, très récent, dont j'ai oublié le titre.
Moi aussi, hélas, je ne l'ai pas noté, mais effectivement, ce sont des livres passionnants et il est très 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 agréable à écouter.
C'est sur Mahomet, hein, c'est sur le prophète, le dernier. Joachim Veliokas, auteur de l'islamisation de la France, qui nous parlera de toute l'influence des organisations islamiques, membres du CFCM et tous les liens qu'elles ont avec les partis politiques, les mairies, etc. Et là aussi, quel est leur rôle et comment lutter contre. Et enfin, avant la conclusion, interviendra une jeune fille française d'origine musulmane et convertie. Et là, on verra les difficultés que peuvent avoir les musulmans de nationalité française, ou autres d'ailleurs, s'ils ont envie de changer de religion. Ce n'est pas une mince affaire. Enfin, Bernard Anthony fera un discours de synthèse sur toutes ces interventions. D'ailleurs, j'en profite pour aussi interpeller tous les candidats qui ne traitent pas du sujet sur le fait qu'on ne peut pas mélanger immigration et islam, d'autant plus que la grande majorité des musulmans vivant en France sont de nationalité française. Il ne s'agit plus d'immigration. C'est un problème maintenant franco-français, sans parler des Français, entre guillemets, de souche qui se convertissent. Alors, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quand même pas mal. Et c'est un phénomène qui va en s'accentuant. Donc, pour tous ces gens-là, alors, on a aussi une quantité de Français qui n'ont pas envie d'avoir cette religion, et ils ne peuvent pas la changer. Alors je rappelle toujours cette anecdote qui est vraie, c'est une histoire vraie, d'un Français d'origine né musulman, qui ne fait pas le ramadan, et qui se fait casser la gueule. Alors c'est un exemple, mais je sais qu'il existe en quantité, et qui a été se plaindre à la police, et la police lui a répondu, ah ben ça c'est pas notre problème, vous êtes musulman, débrouillez-vous. Vous voyez, donc, alors que lui n'a pas choisi d'être musulman, il est né comme ça, mais il a envie de changer. Il a même envie peut-être de ne pas avoir de religion, c'est sa liberté. Eh bien, c'est pas possible.
Mm-hmm. Alors, oui, Richard Haddad, cette question est importante. Ce que vous proposez, ce que vous allez finalement proposer dans cette charte que vous allez soumettre aux politiques, c'est de traiter l'islam différemment. Est-ce que vous ne craignez pas d'être dénoncé pour discrimination religieuse? La question se pose tout de même, même si
Vous savez, de nos jours, de nos jours, tout est à craindre, parce que ça évolue tellement. Bientôt, on ne pourra plus parler, de toute façon. Donc, vous savez, moi, j'édite des livres depuis 13 ans. Et à chaque livre que je publie, je me demande si je vais être condamné, parce qu'on peut plus rien dire. Mais alors, on fait avec, vous savez, on prend des risques. Et donc, voilà.
Je pense
que tout ce qu'on va dire sera dans le respect de chacun, des religions et de la, de la liberté de chacun. Maintenant, après la loi, vous savez bien qu'elle, c'est pas une question de liberté, c'est une question d'oppression. Alors bon, après, on peut plus rien faire.
Voilà. David Fontaine, vous vouliez intervenir.
Oui, non, je pense qu'il est très important, effectivement, d'être au courant de ce qui se passe dans notre pays. Vous parliez de Français convertis à l'islam. Il serait 55 000 officiellement, hein, selon les chiffres qui ont été fournis l'année dernière par la mosquée de Paris. On note aussi que cet islam se fait très très offensif et de plus en plus visible. En Espagne, ils sont assez atterrés de voir débarquer le niqab, c'est-à-dire c'est le voile intégral. On ne voit que les yeux de la jeune femme. Moi-même, j'ai habitant en Seine-Saint-Denis, j'ai eu l'effroi, on peut pas dire ça autrement, dimanche dernier dans un parc public de rencontrer un niqab. Ça fait vraiment drôle. Et il y a vraiment, on pense que les choses se font parce que des individus choisissent des voies extrêmes dans leur parcours religieux, notamment en islam. Je pense que c'est beaucoup plus concerté et organisé qu'on ne pense.
Absolument.
Et donc d'où l'utilité de ce colloque qu'on a évidemment annoncé dans la blogosphère.
Et dites-moi, les actes de ce colloque pourraient être bien intéressants. Seront-ils publiés par Godefroy de Bouillon, Richard Haddad?
C'est possible. On va tout dépend du succès du colloque, en fait. Donc,
plus on sera nombreux.
Plus ça sera encourageant de publier ces actes de la charte.
Oui, cela dit, comme vous le dites, c'est un sujet tout à fait fondamental et important. Et je voudrais rebondir ce que vous avez dit sur cette jeune Française musulmane qui voulait devenir chrétienne et qui veut devenir chrétienne. Eh bien, j'ai rencontré un prêtre qui n'est pas tradit, qui a été dans le diocèse de Paris, qui organise des opérations de conversion dans les banlieues difficiles. Eh bien, lui, il constate avec étonnement que face à une certaine défaillance, dirons-nous, de l'Église catholique en France, eh bien, notre Seigneur prend le relais lui-même, puisque nombreux sont les musulmans qui s'approchent de ceux qui partent pour les convertir en leur disant: nous avons eu un songe, soit de la Vierge Marie, soit de notre Seigneur. C'est quelque chose de tout à fait étonnant, et je crois que là aussi c'est une des pistes peut-être pour l'avenir de la France, où réellement ces musulmans sont présents et français.
Oui.
Je crois qu'ils représentent 5% des catéchumènes qui vont être baptisés la nuit de Pâques.
Eh bien, c'est très impressionnant. Avez-vous encore autre chose à dire sur cette question de l'islam? Parce que je sais que nous allons y revenir avec Bernard Anthony. Nous cherchons à le joindre actuellement au téléphone.
Je voulais juste ajouter que on est en pleine période donc de campagne présidentielle. Et c'est vrai que les meetings politiques se multiplient. Voilà, tous les week-ends, il y a des meetings de tel ou tel candidat. Alors c'est vrai que je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui est contre tel ou tel candidat. Mais c'était juste pour dire que ce colloque est important et différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de répéter les mêmes thèmes présidentiels que nous pouvons entendre dans tel ou tel meeting ou à la télévision. Il s'agit d'un colloque sur l'islam très important. Et encore une fois, il faut que tout le monde se positionne là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de répéter des banalités. Voilà ce que je voulais ajouter.
Alors, je répète que ce colloque se tiendra le samedi 31 mars de 10h à 18h dans les salles de l'ACIEM, qui sont très agréables, 6 rue Albert de Laparent à Paris 7e. C'est d'accès facile, métro Ségur. L'entrée est modique, 10 € pour les participants et 5 € pour les étudiants et chômeurs. Et vous y entendrez Louis Chagnon, René Marchand, Joachim Véliocas, édité par Godefroy de Bouillon, Bernard Anthony et puis d'autres intervenants. Et sur tout cela, vous pouvez trouver des renseignements au 01 40 51 74 07, c'est le centre Charlier. On me signale que Bernard Anthony est en ligne. Je vais vous demander de mettre vos casques. Et Bernard Anthony, vous êtes là ?
Oui, je suis là, Jeanne.
Eh bien, je suis heureuse de vous entendre, Bernard Anthony, et que vous puissiez quand même être avec nous.
Oui.
Et comme vous le savez, vous avez peut-être pu entendre le début de cette émission. Nous parlons pour l'instant de l'islam et du réchauffement islamique de la planète. Je crois que vous avez des choses à dire.
J'ai entendu, Jeanne, et j'ai d'autres choses à dire éventuellement. Alors d'abord, si vous permettez, bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Il y a eu un petit twist. J'avais mal compris un changement de programme. Serge de Bekech est admirable. Il m'a appelé, bien qu'il soit malade, et je lui souhaite vraiment de se rétablir au plus vite, n'est-ce pas, Serge? Et donc, je lui faisais faux bon, mais vous êtes là avec David Fonté, avec Richard, et c'est formidable, et c'est sauvé. Alors, oui, j'écoute de temps à autre, très peu à vrai dire, les émissions politiciennes, les émissions électorales. Pourquoi ? Parce que je vais d'ailleurs appuyer cet argument tout à l'heure. Je considère que ce qui se dit dans les débats électoraux n'a strictement aucune importance. Parce que l'important n'est pas dit. Et je vais en donner une preuve supplémentaire. Mais en attendant, je prends un exemple. Ce qui se passe actuellement au Pakistan est peut-être vital pour la planète. On sait très bien qu'aujourd'hui, le régime du général Musharraf est extrêmement fragile. Le général Musharraf joue depuis des années entre les Américains et les amis de Ben Laden. Le Pakistan, rappelons-le, c'est le second pays musulman du monde, 140 millions d'habitants. Il est adossé à l'Inde, sa rivale traditionnelle, mais en Inde, il y a 130 millions de musulmans qui voudraient bien faire un bloc commun avec le Pakistan. Et puis ensuite, il y a toutes les républiques musulmanes d'Asie, soit environ 400 millions de sunnites. Si demain, comme cela n'est pas impossible, tous les observateurs le jugent hélas probable, les amis de Ben Laden s'emparent de la direction du Pakistan, bien là, des armes de destruction massive, il y en a, puisque le Pakistan est un pays qui possède depuis longtemps l'arme nucléaire. C'est un pays qui possède aussi des sous-marins. C'est Jacques Chirac qui leur a fait vendre, à très bas prix d'ailleurs, des sous-marins français. Donc voilà le danger de ce que j'appelle le réchauffement islamique de la planète, parce que nous sommes en train de voir se former ce que j'appelle un nœud vipérin nucléarisé, c'est-à-dire des vipères qui peuvent mordre d'ailleurs dans plusieurs directions. Cela d'ailleurs aide à comprendre pourquoi l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire à toute force aussi, pas seulement pour viser Israël, le cas échéant, ou se défendre contre Israël, je le sais. Non, c'est parce qu'il y a une rivalité sunnite-chiite réelle. On sait très bien que dans l'islam, il y a un principe supérieur qui est l'umma, la communauté, mais il souffre bien des exceptions. Depuis le 661, la bataille de Karbala, et depuis 680, donc l'assassinat des enfants de Ali, eh bien, il y a une rivalité quand même terrible entre les chiites et les sunnites. Alors donc, voilà ce qui est en train de se mettre en place. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui dans le monde 8 puissances nucléaires, les États-Unis, la Chine, l'URSS, l'Angleterre, la France, la Corée, Israël, et donc le Pakistan. Et donc se profile l'Iran. Alors, vous voyez, ça, c'est le danger véritable. Parce que nous sommes là dans ce que j'appellerais une factorielle de péril. Ça n'est plus seulement le rapport antagoniste qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest il y a seulement 20 ans, entre principalement les États-Unis et l'Union soviétique. Maintenant, vous voyez, ce sont plusieurs pays avec toutes les combinaisons possibles, tous les coups foireux, tous les coups tordus. Est-ce que nous avons entendu un débat avec les principaux candidats au présidentiel sur ce sujet? Non. On interroge Dame Ségolène sur ce qu'elle voudrait faire pour les puces qui, dans certains quartiers, sont dans le poil des chiens ou des chats. On demande donc à Sarkozy ce qu'il entendrait faire pour accélérer la circulation, je ne sais trop où. Enfin, voilà, les questions mineures. Il y a des questions importantes, bien entendu. Nous ne les nions pas. Et même le réchauffement climatique, après tout, c'est important. Mais le réchauffement ce que j'appelle le réchauffement islamique, par maintenant l'émergence des puissances musulmanes disposant, c'est de là, des armes de destruction massive, hein, voilà qui est extrêmement dangereux. Et donc, pour cela, il faut élaborer une politique. Et c'est de la bonne idée qu'a eu Richard Haddad de vouloir ce colloque très, comment dirais-je, très froid d'ailleurs. Hein. Nous analysons les choses très calmement, en espérant que, enfin, on abordera pour cette élection les véritables problèmes, parce qu'on nous dit toujours qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder, qui sont trop importantes pour être abordées politiquement, ce qui est un incroyable mépris pour le politique d'ailleurs. Alors voilà, Jeanne, ce que j'avais à répondre sur ce que mon ami Pierre Soleil a appelé très, très intelligemment le réchauffement islamique de la planète.
Bernard Anthony, vous savez qu'il y a quelques semaines, un collège-lycée musulman a pu ouvrir ses portes à Lyon, un lycée-collège hors contrat. Le recteur de Lyon a été débarqué parce qu'il s'y était opposé. Que pensez-vous de cette affaire, sachant quand même qu'il a utilisé contre cette école musulmane les arguments qui sont également utilisés contre les écoles hors contrat catholiques. Ce sont les mêmes genres de persécution, disons le mot. Qu'en pensez-vous ?
Alors, d'abord, un petit mot tout de même. Il s'agit là du recteur Morvan, qui est très soutenu par les antiracistes, pour la bonne raison qu'il a été en première ligne, en pointe, contre mon ami Bruno Gollnisch dans l'affaire des soi-disant propos scandaleux qu'aurait tenu Bruno Gollnisch. On sait ce que nous en pensons. Nous n'aborderons pas là ce soir. Mais voilà l'arroseur arrosé. Monsieur Morvan est débarqué de son poste de recteur, parce qu'il s'est opposé à la création d'un lycée musulman. Et vous avez raison, le problème de fond est celui de l'islam. Ça n'est pas une fois qu'il y a des musulmans, il semble difficile de leur interdire d'avoir des écoles libres. C'est de droit naturel. Les parents musulmans ont le droit d'élever leurs enfants, de même que les parents chrétiens ou que les parents bouddhistes. Alors donc là, il y a deux problèmes qui se croisent, somme toute. Il y a le premier, qui est celui de l'islam, effectivement, avec sa non-distinction du temporel et du spirituel, avec ses valeurs qui ne sont pas nos valeurs, mais se pose là le problème de l'identité française, dont je me demande comment M. Sarkozy l'a défini, parce que c'est bien beau de dire on va créer un ministère de l'identité française, encore faudrait-il définir cette identité. Et là, je renvoie aux excellentes réflexions de Paul Valéry. Paul Valéry qui, si ma mémoire est bonne, disait l'Europe, ce petit cap de l'Asie, est défini principalement par une population européenne de race blanche, par donc une religion chrétienne, par le droit romain et par la raison grecque. Voilà j'allais dire les constitutifs fondamentaux de l'identité française et plus généralement de l'identité européenne. Alors effectivement, donc cette identité peut intégrer des apports nouveaux. On peut très bien avoir des gens, et nous en connaissons bien, de race noire ou de race jaune, qui ensuite vont être culturellement imprégnés, bon, qui peuvent être religieusement chrétiens, imprégnés du droit romain, de tout ce que signifie la latinité, imprégnés de la raison grecque. Mais tout de même, si nous n'avons plus des populations qui ressemblent à ce qu'elles étaient majoritairement, si nous n'avons plus des populations qui sont culturellement les héritières de nos trois racines, Athènes, Rome et Jérusalem, eh bien, il n'y a plus d'identité. Alors, c'est tout le problème de l'islam. Le recteur Morvan le pose d'une mauvaise façon, et ses partisans d'ailleurs aussi, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas là d'un problème de race, il s'agit d'un problème majeur de civilisation, de culture, je crois qu'il faudrait simplement donc faire en sorte que l'islam ne progresse pas autant en France, et voilà pourquoi nous voulons agir avec l'islam, je le disais dernièrement, comme Napoléon, qui était tout sauf un idiot, l'avait fait à l'époque, quand il avait réuni un consistoire juif qu'il a appelé ensuite avec audace le Sanhédrin, hein, c'était en 1808, j'ai retrouvé tout ça dans le grand historien juif Dubnov, il avait posé au Sanhédrin des questions très pertinentes, et nous pensons, nous allons le développer dans ce colloque, qu'il faudrait donc poser, puisqu'on a créé ce conseil dit français du culte musulman, c'est l'œuvre de M. Sarkozy, c'est une erreur énorme. Bon, il existe, mais au moins faudrait-il poser donc à ces représentants élus un certain nombre de questions et les obliger donc à y répondre clairement. Et notamment, nous souhaiterions que, puisqu'aujourd'hui il y a un droit d'ingérence sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Mais enfin, comment se fait-il que jamais les leaders musulmans français et même le si affable docteur Siamza Boubaker n'aient un mot pour dénoncer les massacres qui peuvent se passer dans des pays d'islam? À partir du moment que l'islam c'est l'Oumma, que c'est une communauté qui exalte cette valeur de l'Oumma, comment se fait-il donc que jamais il n'y a un mot de lui pour regretter, par exemple, les massacres au Soudan ou dans d'autres pays? Cela ne manque pas. Voilà donc pourquoi à la fois on peut comprendre l'inquiétude d'un recteur, mais en même temps je crois que le recteur Morvan utilise de très mauvais arguments, de même qu'il a été, il a eu un comportement tout à fait universitairement répréhensible contre Bruno Gollnisch, qui ne faisait, lui, que renvoyer à une tradition universitaire de liberté, que d'ailleurs ont rejoint Madame Badinter et 500 historiens, et aussi les grands juristes qui ont demandé, avec raison, l'abolition de ce qu'ils appellent les lois mémorielles, hein, qui sont tout à fait stupides et qui empêchent le libre débat, puisque sur ce plan-là, je me suis souvent exprimé dans le cadre de notre émission.
Bernard Anthony, David Fontet veut intervenir et vous poser une question.
Alors, oui. Bonsoir Bernard.
Bonsoir David.
Est-ce que le recteur Morvan a été sacrifié sur l'autel du communautarisme? Est-ce que c'est pas un appel du pied électoral à la communauté musulmane, justement?
Je n'ai pas encore bien analysé tout, mais cela me paraît évident. Et nous voyons là les contradictions, enfin ou plutôt les grands écarts que veut pratiquer M. Sarkozy. Mais en réalité, voyez-vous, David, si vous me permettez, je viens providentiellement de tomber sur une émission de France Inter. Je suis en ce moment même chez mon avocat, Maître Bonneau, avocat de l'ADRIF à Toulouse, pour une affaire qui me tient à cœur, qui est à nouveau, vous m'avez permis de m'exprimer sur le sujet, l'incroyable mensonge sur la soi-disant affaire Dragan Dragable, dont il m'a opposé il y a quelques années un certain nombre de journalistes, eh bien, je viens de tomber sur une émission de France Inter à 17h où l'on interrogeait Laurent Mauduit, que je ne connaissais pas jusque-là. Cet homme parlait bien, il est estimable, il vient d'écrire un livre que je vais aller acheter tout à l'heure qui s'appelle « Petit conseil » paru chez Stock. Laurent Mauduit, ancien journaliste au Monde, met en cause M. Alain Minc. Et j'ai écouté tout son développement. Je dois dire qu'il m'a ouvert, enfin il m'a informé sur des choses que je ne connaissais pas du tout. M. Alain Minc est président du conseil de surveillance du Monde. Mais il est aussi, dit-il, un ami intime de M. Sarkozy. En même temps, il est très lié, très influent à la caisse d'épargne. Il est très influent au journal Libération. Il est très conseiller de la banque Rothschild. Et donc on trouve là un entrelac dont il a comme il est tantôt employé, tantôt employeur. J'ai écouté cette émission d'une manière passionnée, je n'ai pas pu tout noter parce que j'étais en voiture. Il est très lié à monsieur Berger, qui lui, donc qui est bien connu, grand capitaliste bien connu, est un des soutiens de Ségolène. On s'aperçoit donc que au fond, ce qu'on appelait autrefois cette ténébreuse alliance du capitalisme et du apatride et du socialisme international fonctionne toujours d'une manière absolument incroyable. Et je ne sais pas si tout à l'heure, Laurent Mauduit se rendait compte qu'il ne faisait là que vérifier une vieille, comment dirais-je, observation de science politique, mais c'était prodigieux. En réalité, on s'aperçoit, rien qu'en analysant le journal Libération et le journal Le Monde, qu'ils ont les mêmes patrons, et que ces patrons-là, qui s'emploient mutuellement, qui sont le conseiller tantôt président, hein, sont les uns très proches de Sarkozy comme Alain Minc, les autres très proches de Ségolène comme Berger, en réalité on voit bien qu'il n'y a strictement aucune différence que la France sera gouvernée de la même façon, par les mêmes intérêts, au nom des mêmes valeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, David, mais je dois dire que je livre cela à chaud aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que je ne peux pas écouter toujours que Radio Courtoisie, et même à France Inter, on a l'occasion comme ça de pouvoir, comment dirais-je, voir quelques aspects qu'il y a derrière la scène, comme disait l'Israéli. Tout ne se passe pas toujours sur le devant de la scène, mais ça se passe beaucoup dans les coulisses. Et tout à l'heure, on a pu avoir comme une fulgurance sur les coulisses de la vie politico-économique française.
Donc en matière d'identité nationale, vous êtes plutôt pessimiste. Comment vous vous situez? Parce que c'est quand même le thème que se réapproprie à des degrés divers et de différentes manières tous les hommes politiques, y compris Ségolène Royal, qui est dans une salle d'un quartier bobo de Paris, au gymnase Japy, a longuement digressé sur ce thème. Vous êtes pessimiste, que va-t-il en être de ce...
C'est-à-dire en fait que chacun défend son identité. Alors on le sait fort bien, l'identité d'un peuple, comme les races, comme les nations, tout ça est évolutif. Alors il y a des identités qui demeurent dans l'histoire très affirmées. Par exemple, on peut dire que l'identité japonaise est une identité très affirmée depuis des siècles et qu'elle n'a pas encore beaucoup bougé. L'identité chinoise, bien sûr, il y a eu les va-et-vient entre les Mandchous et les Mongols, mais enfin, c'est une très vieille nation, très fixée. Eh ben, nous avons été fixés depuis des siècles. Somme toute, l'identité française, donc, était autour de ces composantes définies par Paul Valéry. Une appartenance raciale, il n'y a rien là-dedans qui soit, je pense, politiquement interdit. La race est une belle et grande chose si l'on en a la conception que nous avons, qui est biblique, qui est celle de Frédéric Mistral aussi. Donc nous sommes des Européens, de couleur blanche essentiellement, nous sommes des Latins, nous sommes des héritiers de la Grèce. Enfin, le général de Gaulle, d'ailleurs, que je n'aime pas par ailleurs pour d'autres points, avait défini cela. Or, dans cette identité fixée relativement à travers ses composantes, bouge beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que quand Ségolène Royal parle d'identité, ce n'est plus cette identité qui a été celle de la France. Elle l'est encore, mais Ségolène veut, au fond, ce que j'appelle le métissage gratuit, laïque et obligatoire. Nous respectons beaucoup le métissage qui résulte de l'aventure amoureuse de êtres qui s'aiment. Quand les soldats français étaient en Indochine, ils ne pouvaient pas rester insensibles à la beauté des filles indochinoises. Nous n'avons rien contre ce métissage-là. Mais ce qui est aujourd'hui tout à fait irritant, c'est cette volonté, en quelque sorte, de briser nos racines d'un métissage forcé. Et ça, ça correspond à un programme idéologique. Et donc, c'est Ségolène Royal, quand elle parle de l'identité de la France, ne parle pas d'identité chrétienne, elle crache sur cette identité chrétienne, puisqu'elle règle un compte elle-même avec son nom, avec sa famille. Mais je crains que M. Sarkozy ne définisse pas non plus très bien cette identité. Pourtant, bon, il est un Français avec d'origine étrangère, mais d'un pays que nous aimons tant, la Hongrie, qui a lutté pour la liberté. Donc, quand Sarkozy ose quelquefois se dire un immigré, c'est de la plaisanterie. La France, depuis toujours, a accueilli des Polonais. Elle a eu dans ses armées des princes polonais, comme les Poniatowski. Elle a eu des régiments de Croates. Ça a donné le Royal Croate qui nous a donné la cravate. Alors nous sommes partisans, tout en étant des nationalistes français, d'une belle harmonie européenne. Je crois savoir que vous-même, cher David Fonté, vous êtes d'origine espagnole et d'une province que j'aime tout particulièrement, qui est la Galice, la province de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, voilà, nous savons ce qu'est notre identité. Et notre identité, elle est principalement chrétienne. Hein, c'est quand même une identité façonnée par nos clochers, même Mitterrand. Ne s'y trompez pas, il fallait voir ses affiches électorales. Alors, aujourd'hui, on aimerait bien que cette identité soit définie sur la base de ce que disait Paul Valéry. Nous ne nous battons pas pour une identité qui serait aujourd'hui modifiée très rapidement, comme le veulent les politiciens qui nous dirigent.
Bernard Anthony, il y a un certain nombre questions qui tombent. La première va se diriger vers Richard Haddad. Elle vient d'un auditeur qui demande si Richard Haddad ne force pas un peu les choses en disant que Villiers et Le Pen confondent immigration, islam et arabisme. À l'entendre, on a un peu l'impression de quelqu'un qui rabaisse outrageusement les autres pour mieux vendre sa propre soupe. Excellente raison pour ne pas dépenser les 10 euros du colloque. Alors, je vais laisser, si vous voulez bien, Richard Haddad répondre deux minutes, et après, Bernard, je vous poserai deux autres questions.
Ah oui, je vais répondre.
Je suis sûr qu'il va bien répondre cette question.
C'est très simple.
Mérite effectivement une réplique.
C'est très simple. Il ne s'agit de rabaisser qui que ce soit. C'est pas le but. On n'a pas dit que c'est des. Il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Moi, je défie quiconque de me citer une ligne du programme des uns et des autres. Il ne s'agit pas de Villiers, de Le Pen, de tout le monde, de tous les candidats à la présidentielle sur l'islam. Lorsqu'on traite de ce sujet-là, ils répondent sur l'immigration. Alors, est-ce que ils n'ont pas envie de répondre? Est-ce que c'est un sujet brûlant qu'on n'a pas envie de traiter? J'entends par islam le vrai islam. C'est pas parce que dès qu'on parle de l'islam, les réponses se font sur l'immigration, sur le. Il s'agit pas de ça. C'est les beurs de banlieue. C'est pas ça le problème. L'islam, c'est quelque chose. C'est un système de vie, c'est un système social, etc. Et aucun ne nous parle de ça de façon approfondie. Alors, il s'agit pas de rabaisser qui que ce soit, mais j'aimerais. Alors, celui qui me dit qu'on rabaisse les uns et les autres, qui me cite une ligne de leur programme sur ce sujet-là. Et lorsqu'on les interroge, même à titre privé, ils nous disent « Ah, mais on ne s'occupe pas de religion, nous sommes un parti politique, les religions, ce n'est pas notre problème, on n'est contre aucune religion. » Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien compris au sujet. Il ne s'agit pas d'être contre les religions, il s'agit de les comprendre pour savoir ce que l'on fait avec. Car, encore une fois, on a affaire à une religion qui est en même temps une nation, et une nation conquérante.
Voilà. Alors, Richard Haddad, il y a énormément de messages en ce sens qui confirment, qui abondent dans votre sens, et je ne vais pas les lire tous. Je vais dire à Bernard Anthony ce qu'écrit un auditeur de Radio Courtoisie. Les hommes politiques ont des conseillers plus ou moins compétents. Savez-vous si M. Sarkozy a un conseiller en affaires musulmanes? Alors, je vois votre réponse. Il en a un, il n'est pas très bon, c'est ça, Bernard?
Oui, alors écoutez, de toute façon, M. Sarkozy a beaucoup de conseillers. Il en a un éminent, qui est M. Alain Menck, président du conseil de surveillance du journal Le Monde, conseiller de la banque Rothschild, conseiller de l'agence Havas, donc il a des conseillers, effectivement, de très haut niveau. Pour ce qui est des affaires musulmanes, il en a sûrement plusieurs, mais je crois que M. Sarkozy va très vite, et je pense que lui aussi commet l'erreur que justement dénonce Richard Haddad. Le problème de l'islam n'est pas un problème religieux, il est un problème idéologique. L'islam est un tout. C'est monsieur, nous l'avons dit souvent, Tariq Ramadan, qui est intelligent, hein. Nous n'abaissons pas nos adversaires, loin de là. Monsieur Tariq Ramadan dit que l'aspect, je n'ai plus ces notes sous les yeux, l'aspect donc religieux de l'islam n'est que secondaire. Il est, dit-il, une règle qui régit absolument tous les aspects de la vie et notamment de la politique. Donc nous voulons débattre justement pour, comment dirais-je, demander aux responsables de l'islam de réduire leur conception islamique aux religieux, mais nous ne pouvons pas accepter leur conception de la société qui est un défi à notre sens de la nation, à notre sens de la patrie. C'est là que le débat doit porter. C'est là qu'un jour, moi, je serai tout à fait disposé à débattre avec M. Tariq Ramadan.
Richard Haddad.
Oui, moi j'ai quand même une réponse sur les conseillers des uns et des autres, notamment Sarkozy ou Ségolène Royal. Ils ont des conseillers qui connaissent l'islam et qui sont d'origine musulmane, mais qui ne représentent rien. C'est leur islam à eux. Je vais donner un exemple. Ce sont pour à gauche, par exemple, pour Ségolène Royal, des gens qui sont proches des mouvements comme Ni pute ni soumise. Du côté de Sarkozy, ce sont des Français d'origine maghrébine qui connaissent rien à leur propre religion dans laquelle ils sont nés. Mais quand ils en parlent, ils parlent de leur islam à eux. Mais qui représentent-ils? Personne. C'est moi. Je les vois, je les connais. Quand je les entends parler de l'islam, mais c'est ça l'islam, et en fait ils se font leur propre définition de l'islam, ils ne représentent qu'eux-mêmes. C'est ça le problème, c'est que ces gens-là s'appuient sur des conseillers qui ne représentent pas les musulmans.
Alors, allô ?
Oui.
Oui, Richard, si tu permets, je voudrais là dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils trouveront dans le prochain numéro de Reconquête une réplique que j'ai écrite il y a très peu, un petit opuscule, de Madame Ribot-Vinas, qui se dit diplômée en lettres et sciences humaines de l'université Paul Valéry à Montpellier, et qui a écrit un petit opuscule que j'ai trouvé, c'était le hasard d'une pérégrination, au musée juif, fort intéressant d'ailleurs, de Gérone en Catalogne espagnole. Alors voilà, c'est l'exemple même de ce qui envahit les cerveaux aujourd'hui et de la désinformation historique. Cette dame dont la photo montre qu'elle est sans doute une bonne cuisinière pour les escargots, qui déclare avoir des relecteurs pour son œuvre, ce qui n'empêche pas de faire en moyenne 15 fautes d'orthographe par page. Voilà ce qu'elle écrit dans ce qu'elle juge une œuvre, son œuvre, à savoir que les guerriers berbères qui ont déferlé en Espagne étaient en quête de pâturage pour leurs bêtes à laine, mais que ils étaient de magnifiques cavaliers, ils étaient cultivés, ils échangeaient des propos sur la philosophie grecque, etc. En revanche, dit-elle, les Francs, barbares, illettrés, malpropres, violents, ne furent vraiment pas un progrès. On rêve devant ces synepsies. Voilà ce qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. C'est une véritable offense à notre civilisation. Ce sont des réductions historiques regrettables. Parce qu'enfin, bon, c'est très bien, nous nierons pas qu'il y a pu y avoir de beau dans la civilisation islamique. Moi, je suis tout à fait sensible à la beauté d'une mosquée à Bagdad. Pourquoi pas? D'ailleurs, elles sont toutes faites sur le modèle, à peu de choses près, de la tradition byzantine. Voilà, aujourd'hui, ce genre de confusion pour, en quelque sorte, nous inviter à rougir de notre civilisation. Hein, nous serions, nous, les héritiers, voyez, je relais, de gens de ces Francs, barbares, illettrés, malpropres, violents. Bon, je ne vais pas faire l'offense aux auditeurs de Radio Courtoisie de réfuter de pareilles inepties. Mais voilà le genre de choses qui est distribué dans les centres culturels, et ça, c'est édité, par exemple, avec l'argent du Conseil régional de Languedoc-Roussillon.
Bernard Anthony, je crois que nous n'allons pas nous attarder encore longuement sur l'islam parce que il y a d'autres sujets, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions sur le fait que l'islam n'est pas simplement une religion. Il y a ici une question intéressante, quel est l'intérêt des mondialistes à laisser prospérer une autre idéologie qui peut les balayer, l'idéologie musulmane qui est effectivement soutenue d'une certaine façon par le mondialisme. Une réponse brève, si vous voulez bien.
Oui, je crois que c'est une grande erreur. Parce que, au fond, c'est une globalisation hâtive. Il y a une grande historienne qui s'appelle Badior, qui est une historienne israélienne qui porte sur la chrétienté un regard tout à fait objectif et positif. Elle a traité de cette question-là, parce que tout ça, c'est fait à des fins de propagande, somme toute. Mais je ne peux pas en traiter ce soir. Je répondrai à cette question dans la prochaine émission, parce qu'elle est très importante. En tout cas, c'est une illusion. On a vu, certains mondialistes ont vu dans l'islam comme le vecteur de dissolution de nos nations. C'était un vieux projet. Je crois que ils n'ont pas vu d'un côté très positif, mais ils se sont dit, avec l'islam, on va mettre à bas les nations, hein, selon un vieux projet maçonnique qui s'appelle Solvay et Coagula. Hein, dans l'islam, c'est bon dans la phase Solvay, et puis ensuite, bon, ils construiront le monde nouveau de leur utopie. Eh ben, c'est cette utopie que nous ne partageons pas. Voilà ce que je peux dire à brûle pour point comme ça, à cette question intelligente.
Bernard Anthony, un auditeur...
Dernière question, Jeanne, parce que oui. Je ne veux pas abuser, je suis loin. Alors
voilà. La dernière question, enfin, c'est simplement une réaction d'auditeur que je vous signale, parce que je pense qu'elle mérite une petite réplique là aussi. Si les Français sont de race blanche, dit-il, cet auditeur, les Antillais, les Tahitiens et autres habitants des îles peuvent, avec la bénédiction de Monsieur Anthony, se détacher de la République, puisqu'ils ne sont pas blancs. Non, ce genre de déclaration, etc., etc. Vous n'avez pas du tout dit ça.
Je n'ai pas du tout dit cela, je dis à cet auditeur que j'ai d'ailleurs élevé trois filleuls vietnamiens, que je participe le plus souvent avec mon ami Jean-Pierre, qui est pour moi un frère, à qui j'ai rendu, je crois, un gros service, un Wallisien. Je n'ai pas du tout dit cela, j'ai dit exactement le contraire. Mais j'ai dit à l'origine, nous sommes un peuple européen, enfin, on va quand même pas être complexé. Alors, je n'ai strictement rien dit. Bien au contraire, nous avons à Chrétienté Solidarité des Antillais, nous avons des Vietnamiens, des Laotiens. J'ai dit, il y a des apports que nous pouvons intégrer, de même que l'Empire romain intégré. Mais c'est, enfin, tout de même, j'ai cité Paul Valéry. Paul Valéry n'était pas, que je sache, de l'Académie française, un raciste, ça n'a rien à voir. Cet auditeur n'a donc rien compris, alors je le prie simplement d'avoir un petit sens des nuances. On ne pourrait pas accuser, par exemple, un Vietnamien qui dirait « mon pays est essentiellement un pays asiatique de race jaune », enfin, hein, donc je ne vois pas, moi j'adore notre Extrême-Orient, notre Indochine, je ne vois pas comment je pourrais considérer comme un raciste celui qui dirait « l'Indochine est jaune ». J'ai un grand ami au Sénégal qui est le professeur Jabril Sam. Quand le professeur Jabril Sam évoque comme Léopold Sédar Senghor la négritude, je ne vais pas le traiter de raciste. Le Sénégal est un pays essentiellement de race noire. Enfin, qu'est-ce que sont ces complexes là relèvent aujourd'hui d'une véritable maladie intellectuelle. Il faut vraiment que cet auditeur donc fasse un grand effort de libération par rapport donc à cette pesanteur donc comme certains antiracisme a exercé. Là, alors, il faut remercier Alain Finkielkraut d'avoir dit l'antiracisme c'est le communisme du 21e siècle et ça fait tout bonnement déconner. Voilà.
Bernard Anthony, je voudrais simplement signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous avez un blog qui s'appelle bernard-anthony.blogspot.com, je crois.
Oui.
Et là, vous réagissez fréquemment à l'actualité. On peut donc voir vos communiqués, vos coups de gueule, vos humeurs. Et notamment, une réaction rapide que vous pouvez peut-être évoquer à propos de l'affaire Battisti, avant de nous quitter.
Oui, alors là, l'affaire Battisti m'a indigné parce qu'enfin on dirait que c'est l'affaire du siècle, on dirait que Battisti c'est Dreyfus, hein. Donc là j'ai entendu sur France Inter pendant des dizaines de minutes parler de l'affaire Battisti avec de grandes inquiétudes. Monsieur François Bayrou s'inquiète, il faudrait le rejuger. Enfin, là, on voit la vieille connivence des trotskistes avec les terroristes. Enfin, donc, qui est Battisti? Il a été jugé en Italie, ça n'est pas une dictature, hein, il a été jugé pour 4 assassinats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le romantisme de monsieur Battisti. Alors là, chez les bobos branchés, oh, un homme comme ça qui a pu assassiner par 4 fois, ça me rappelle l'affaire Pierre Goldman. Enfin, c'est hallucinant. Alors, Battisti a été arrêté au Brésil, il mérite d'être extradé, il mérite de payer pour le moins ces 4 assassinats abjects, parce que là, ce qui est tout de même incroyable, c'est cette levée de bouclier, cette complicité médiatique. On dirait que Battisti, donc, est un persécuté. Enfin, Battisti est surtout un bourreau. Mais je remarque que l'arrestation de Battisti soulève médiatiquement, je dis bien, pas dans le peuple, hein, beaucoup plus d'interrogations, d'angoisse, que va-t-il devenir, que l'assassinat des petites filles d'Alsace qui ont été, Julie et Jeanne-Marie, qui ont été violées, torturées, etc., elles n'ont pas eu droit au centième de la, comment dirais-je, de la complaisance médiatique qu'obtient M. Battisti. Là, il y a vraiment quelque chose de pourri chez nous. Il y a cette espèce de fascination pour les meurtriers et les bourreaux, et cette indifférence totale, donc, aux petits enfants que l'on enlève. Et là, je réitère effectivement que nous sommes en pareil cas, comme le père Brutberger, qui fut un grand penseur, et comme le catéchisme d'ailleurs de l'Église catholique, pour le châtiment proportionné, dont la peine de mort. Alors je ne dis pas que M. Battisti mérite la peine de mort, mais pour le moins, il a été condamné, et il doit payer son abject assassinat, parce que les gens qu'il avait au bout de son pistolet étaient sans défense.
Bernard Anthony, je vous remercie beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Eh bien, Jeanne, j'ajoute que je suis tranquille pour le suivi de l'émission, que nous nous retrouverons dans le studio le mois prochain. Je jure à Serge de Bekech que je ne ferai plus de confusion de date. Et encore une fois, bonne continuation d'émission. Essayez de répondre au maximum de questions avec tout le talent que vous avez tous les trois. À bientôt.
Merci Bernard Anthony. J'annonce l'arrivée dans le studio d'ailleurs d'Olivier Figueras, journaliste à présent, et qui va nous parler d'un anniversaire qui tombe le 25 mars. mars, ce sont les 50 ans du traité de Rome. Et là, ça fait quand même un bail que nous vivons sous ce régime-là. Olivier Figueras, comment fêterez-vous le 25 mars, sans parler des 25 ans de présent, bien sûr?
J'allais justement répondre que je le fêterai à Villepreux, avec mes camarades et de présent et tous les lecteurs qui se joindront à nous. Vous parlez des 50 ans du traité de Rome. Je dois préciser, comme il s'y est, que c'est le 50 ans des traités de Rome, puisque à l'époque, les 6 pays qui composaient alors la communauté européenne ont signé 2 traités. Le premier concernait le nucléaire. Il s'agissait de coordonner les efforts de cet embryon européen dans l'affaire nucléaire. On en est bien loin aujourd'hui où on se débat avec l'Iran ou la Corée et où on a débordé très largement le cadre européen pour se soumettre plus ou moins à un impératif posé par les Américains dans ce domaine. Et le deuxième était le traité instituant la communauté économique européenne, qui est depuis les années 80, je pense que c'était 84, a été rebaptisé le traité instituant la communauté européenne, puisque l'économique a disparu. On sait bien que cette Europe, qui au départ s'est constituée effectivement dans un but économique qui tendait à regrouper des pays pour, en équilibrant finalement un niveau de vie et des moyens de vivre ensemble, leur laisser une certaine indépendance politique, et on espérait avec ce simple aspect économique arriver à une paix prospère après une guerre qui avait ensanglanté toute l'Europe. On sait très bien que depuis on a débordé ce cadre pour essayer d'établir une unité politique dont on s'aperçoit tous les jours et dont Angela Merkel fait la triste expérience à quelques jours de ce cinquantenaire, des difficultés de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées qu'il y a à essayer de faire une unité politique. D'abord parce que parmi les tout premiers membres de cette union, les 6 premiers, il y a déjà difficulté à établir un accord politique. On sait notamment que les Anglais sont tout à fait opposés à établir une unité politique. Ils étaient bien contents d'avoir une unité économique qui pouvait leur donner moyen de prospérer en tant qu'Anglais, mais ils n'ont aucune envie de se retrouver avec des obligations dont ils tâchent tous les jours de contraindre Bruxelles à les mettre en marge pour ne pas avoir à s'y soumettre. Mais en plus, parce que nous avons maintenant à 27 des tas de pays, notamment les anciens du bloc de l'Est, qui n'ont aucune envie de se retrouver avec une politique contraignante comme ils ont pu la connaître plus à l'Est autrefois et qu'ils entendent bien. C'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Pologne. S'ils veulent bien suivre les questions économiques qui peuvent les aider à se développer, ils n'ont aucune envie de se retrouver sous un joug politique qui les obligerait à un certain nombre de choses auxquelles ils n'ont aucune envie de se soumettre.
Donc ce cinquantenaire, Olivier Figueras, c'est finalement n'est pas sous de si mauvais auspices, dans la mesure où il y a un certain nombre de pays membres qui justement renâclent lorsqu'il s'agit d'abandonner des souverainetés.
Je pense que effectivement un certain nombre de pays renâclent, et je pense que nos dirigeants, enfin les plus européistes de nos dirigeants, ceux qui à Bruxelles conduisent ces politiques au nom des États qu'ils sont censés représenter, auraient pu y penser plus tôt, puisque on sait bien que si nous avons commencé par cette communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, à l'époque du traité de Rome, il y avait aussi une perspective qui était la communauté européenne de défense, laquelle a lamentablement échoué, et c'est après cet échec que l'Allemagne a fini par nous rejoindre. On sait que dès le départ, toutes ces questions politiques ont posé un très gros problème. Aujourd'hui, alors, on voit Lors du dernier sommet, il y a à peine deux semaines, le dernier sommet européen auquel Jacques Chirac a participé, il a, devant Angela Merkel et ses compères, fait amende honorable pour n'avoir pas su imposer, enfin il n'a pas dit ça, mais pour n'avoir pas su expliquer aux Français qu'il fallait voter oui au référendum sur la Constitution européenne, chose qui aujourd'hui l'intéresse de moins en moins, puisqu'il s'est trouvé des débouchés environnementalistes qui aujourd'hui vont lui donner beaucoup plus d'intérêt et peut-être des moyens d'échapper aux...
Des immunités, vous voulez dire?
Éventuellement des immunités. Mais on a vu que il y a eu une absence très remarquée à ce dernier sommet européen, celle du président de la République tchèque, Václav Klaus, qui était à Washington à ce moment-là, qui a trouvé que ce sommet où il était finalement Angela Merkel faisait le tour de table pour essayer de faire une déclaration commune qui était, si on peut prendre ce terme un peu mathématique, le moyen de trouver le plus petit dénominateur commun auquel les 27 puissent se rallier, ce qui devient très très difficile si on lit tous les jours les centaines de pages qui sont publiées dans le cadre de l'Union européenne. On s'aperçoit que trouver un dénominateur commun, c'est vraiment un tour de force. Václav Klaus, donc à Washington ce même jour, expliquait que cette espèce de marche forcée à l'Europe où on imposait à tout le monde une unité qui ne correspondait ni à leurs valeurs personnelles ni à leurs valeurs communes, c'était en fait un déni de démocratie. On a dans le même temps, alors Angela Merkel était très fière d'elle puisque la semaine dernière elle a rencontré le président Lech Kaczynski, vous permettrez de dérafler son nom, la prononciation polonaise n'est pas mon fort, mais elle l'avait donc rencontré et il était prêt à faire certaines concessions dans le cadre de cette déclaration commune qu'ils entendent signer, enfin qu'ils signeront d'ailleurs ce 25 mars. Dans le même temps, son frère, Yaroslav, qui est donc Premier ministre, faisait des déclarations on ne peut plus claires pour expliquer qu'il était hors de question de suivre l'Europe sur une unité qui se refusait de reconnaître d'une part les valeurs chrétiennes et d'autre part la réalité religieuse qui sont à l'origine de sa formation, disant que c'était contraire à la vérité, qu'on ne pouvait pas comprendre que des peuples signent contre la vérité. Et ça laisse à penser que ce que le président polonais a dit à Angela Merkel n'a finalement que fort peu d'importance. Ce consensus lors de cette déclaration commune sera finalement une signature sur de bonnes intentions, de bons souvenirs de 50 années passées ensemble et rien de plus.
David Fonté, vous intervenez à propos des 50 ans de l'Europe.
Alors, la commémoration des 50 ans se fait quand même de manière prudente, hein, parce qu'on a appris que les Turcs n'étaient pas invités, donc ça leur fait pas plaisir. Il semble qu'on ménage beaucoup l'opinion européenne, on la sent très récalcitrante, non ?
On la sent très récalcitrante, et il y a de quoi, puisqu'on est toujours sous la menace des Néerlandais et des Français, dont nous sommes tous autour de cette table, qui ont dit non, et qui ont dit non notamment à cause de la Turquie. La Turquie n'est pas invitée à ses 50 ans, ben elle ne fait pas partie des 50 ans, elle n'est pas là dans aucun des instants de ces 50 dernières années. Cela dit, la Turquie a tort de s'inquiéter, ou nous avons tort de nous réjouir. La Turquie a signé la Constitution européenne il y a deux ans et demi maintenant à Rome, lors de la signature des 27 qui signaient par leurs représentants établis, soit chef d'État, soit chef de gouvernement, soit ministre délégué pour l'occasion, qui signaient le texte de la Constitution européenne. Et la Turquie, qui était censée n'être là qu'en observateur, a signé ce fameux document. Et aujourd'hui, Bruxelles, qui se fait fort de rassembler les 27 sur ce sujet, rappelle à chaque occasion que cette signature a une certaine valeur. et que cette valeur, finalement, si les chefs d'État ont signé, ils doivent reconnaître une valeur à cette signature et qu'il ne suffit pas de dire que leurs opinions nationales se sont finalement prononcées contre.
J'ai un peu zappé hier donc sur les chaînes comme Euronews, Arte, qui sont très europhiles. Et je voyais donc le commissaire Barrot qui était assez crispé sur son fauteuil et qui justement a entonné la complainte de l'Europe nécessaire, de l'Europe vitale, de l'Europe phare du monde comme modèle de progression vers finalement le gouvernement presque mondial, quoi, vers le paradis sur terre. C'est une réalité quand même, cette obsession. Il y a une obsession des pas seulement des commissaires européens, mais l'Allemagne va profiter de sa présidence pour remettre le couvert. Olivier Figueras.
Ah, c'est certain. Angela Merkel, finalement, de toutes ses interventions publiques, on ne sache pas qu'elle ait dit quoi que ce soit qui concerne des actes pratiques de gouvernement à mettre en place pour l'Europe. Depuis le 1er janvier, depuis qu'elle a accédé à cette présidence tournante, et donc jusque, je suppose, au 31 juin, à moins qu'elle change de tactique d'ici là, elle ne fait que nous resservir cette nécessité absolue de resservir cette constitution à ceux qui ne l'ont pas adoptée. Donc les Néerlandais, les Français, et alors on a vu il y a 15 jours les principaux des européistes de Bruxelles se mettre en émoi parce que l'archipel d'Åland en Finlande, qui a une certaine indépendance et qui doit donc contresigner tous les traités que signe la Finlande, menaçait, parce que il est composé essentiellement de pêcheurs et que la pêche a beaucoup souffert de l'Union européenne, au moins dans la façon qu'ils avaient de la pratiquer et les autorisations qu'ils avaient pour pêcher en divers endroits. Et comme ils ont beaucoup souffert de cela, les 27 000 habitants d'Åland menacent de ne pas ratifier la Constitution. Et si les 27 000 pêcheurs, enfin, ou presque 27 000 pêcheurs menacent de ne pas signer et qu'ils ne signent effectivement pas, on se retrouvera avec une petite part de la Finlande qui n'aura pas signé et ce tout petit grain de sable sur les près de 500 millions que représentent aujourd'hui les 27 États membres est finalement un nouveau blocage de ce rouage mal constitué puisqu'il n'est pas constitué finalement au départ d'une façon politique et qu'il ne semble pas qu'aucun des chefs jusqu'ici de Bruxelles n'aient réussi à décider les États membres dans leur majorité à faire un consensus final. Le consensus sur cette déclaration commune qu'ils signeront dimanche se fait sur finalement des souvenirs historiques. On est même prêt à parler d'identité chrétienne pour certains dans ce texte. Le président du Parlement européen, Hans-Gerd Pöttering, qui est donc allemand comme Angela Merkel, a expliqué que si on en parlait à ce moment-là, ça nous éviterait peut-être d'en reparler lors de la signature définitive de la Constitution. On va essayer d'évacuer dans ce texte, pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas trop favorables, tous les sujets un peu difficiles, dans un consensus mou dont on espère qu'il effacera toutes les difficultés et qu'il permettra sans doute d'adopter toutes les autres décisions à venir.
Que l'Europe se fasse contre les peuples, c'est donc une évidence. Et on constate également que ce sont les petites choses, les petites minorités, comme l'avait déjà signalé le cardinal Ratzinger en son temps, qui font bouger l'histoire. Et ça nous incite puissamment à être une petite minorité. Je voudrais lire quelques messages. Donc, vous écoutez Radio Courtoisie. C'est Jeanne Smith, le directeur de présent, qui anime aujourd'hui l'émission de Bernard Anthony, l'émission de la réplique, en son absence. J'ai ici un message qui dit très gentiment « Merci aux camarades remplaçants intérimaires d'apprendre que les messages ne sont pas pour eux, mais pour les auditeurs, donc à lire à l'antenne. » Bon, j'ai lu votre message, cher auditeur. Je ne peux pas lire tous les messages, car il y en a au moins 50 ou 70. J'y passerai mon temps. Nous avons quitté les sujets, hélas, dont il parlait, et j'ai tenté de résumer l'esprit de ces messages. Je crois que c'est une bonne chose. J'ai une autre question d'une auditrice. Que se passe-t-il ce soir? Pourquoi entend-on Bernard Anthony à cette heure-ci? Serge de Beketch est-il malade? Je ne sais si Serge de Beketch est malade. Il me semble que Bernard Anthony l'a signalé. Oui, il l'est, hélas, mais nous lui avons parlé tout à l'heure. Effectivement, cette émission est prévue et il est prévu que Serge de Beketch nous donne l'émission de la réplique à partir de maintenant à 18h. Donc c'est un horaire qui a changé, ça n'a rien à voir avec l'état de santé de Serge de Beketch. Je voudrais passer à un autre sujet mais qui reste dans le domaine européen, si vous voulez bien, Olivier Figueras. C'est une décision tout à fait récente puisqu'elle date d'hier de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de condamner la Pologne à verser 39 000 euros au total, à savoir 25 000 euros de dommages plus 14 000 euros pour les frais de justice, à une Polonaise nommée Alicia Tisiak. C'est une femme qui était mère de deux enfants, très myope, un gros problème de santé, qui s'est trouvée enceinte en l'an 2000 et qui avait très peur, très très peur, de devenir aveugle à terme à cause de cette nouvelle grossesse. Et elle a demandé à bénéficier de la loi polonaise qui autorise les avortements dans des cas extrêmement limités, qui sont les cas de viol, les cas de malformation fœtale et également les cas de danger pour la santé ou la vie de la mère. Alors Alicia Tisiak, elle fait le tour des médecins, elle voit des ophtalmos, elle voit des gynécologues, elle voit un certain nombre de gens, et tout le monde en bloc lui dit, eh bien non, nous ne sommes pas du tout sûrs que votre état de santé, et notamment votre vue, puisse se détériorer encore si vous menez à terme cette grossesse. Mais elle a trouvé une gynécologue qui n'était donc pas spécialiste en ophtalmologie, qui elle a dit, si si, il faut avorter. Forte de ce certificat, elle se présente et là on lui dit non madame, il faut un avis de spécialiste. Les spécialistes concourent à vous dire que on n'est pas sûr du tout que votre santé se détériorera dans le cadre de cette grossesse, donc vous n'avez pas droit, entre guillemets, à un avortement. La jeune femme finit par accoucher, sa petite fille a aujourd'hui 6 ans. Et quelques mois plus tard, elle va subir un décollement rétinien qui effectivement va détériorer sa vue et elle passe d'une myopie sévère à une myopie très sévère. Elle n'y voit plus qu'à 1,50 m. Elle a du mal à élever ses enfants, qu'au demeurant elle élève seule. Elle passe donc devant la justice polonaise pour dire j'avais droit à un avortement, puisqu'elle est persuadée en son fort interne que cet avortement aurait évité la détérioration de son état de santé, et l'affaire aboutit devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on a un jugement extrêmement important, extrêmement intéressant, hélas, et extrêmement mauvais. Puisque les juges ont estimé que rien ne prouvait médicalement que le fait de mener à terme cette grossesse pouvait influencer l'état de santé de Madame Alicia Tisiak. Donc, sur ce plan-là, finalement, elle donne raison aux médecins polonais. En tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme refuse d'intervenir dans ce débat et dit, finalement, il a été clos, c'est très bien comme ça. Mais elle va arguer de la peur ressentie par Alicia Tisiak en disant que elle a subi une angoisse et une souffrance considérables, c'est ce que dit la Cour, y compris les craintes quant à sa capacité physique à prendre soin d'un nouvel enfant. Donc cette crainte, dit la Cour, justifie que Madame Tisiak soit indemnisée pour n'avoir pas eu recours à un avortement. Vous voyez que ça va très loin. En fait, la Cour a voté à 6-1, pour dire qu'il y avait eu ce dommage moral indemnisé à hauteur de 25 000 euros, plus 14 000 de frais de justice. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est que on a tenu compte des arguments des instances internationales et des instances de pression pour plus de planification familiale et plus de légalisation de l'avortement pour donner raison à Alicia Tisiak, qui a eu quasiment ce qu'elle demandait. Elle demandait qu'on lui rembourse ses frais de santé consécutifs à son décollement rétinien. Ça, c'est une chose que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas faite. Et à la limite, on aurait compris qu'elle le fasse. Mais la Cour européenne n'a pas raisonné comme ça. Elle a dit non. Ce qui s'est passé, c'est qu'Alicia Tisiak a eu très peur. Et c'est un dommage moral qu'on va lui indemniser. Elle n'a pas eu droit à un avortement. Ça lui a fait peur. Donc, elle a droit à des sous. Alors j'ai lu le jugement de l'arrêt Tisiak contre la Pologne, fait 44 pages. Il mérite d'être lu, je vous renvoie sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme, il vaut la peine, mais je voudrais vous signaler plusieurs choses dans ce jugement. Il y a d'abord eu une prise en compte des observations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, où l'on apprend donc que très efficacement, l'ONU fait pression sur la Pologne, sur les instances internationales, sur l'Union européenne, pour obtenir que la culture de mort fasse ses progrès. Ainsi, en 96, le comité, je cite, relève avec préoccupation en Pologne la rigueur des lois sur l'avortement, qui se traduit par un nombre élevé d'avortements clandestins, avec les risques qui en découlent pour la vie et la santé des femmes, etc., etc. On déplore que les femmes n'aient pas meilleur accès aux contraceptifs, et puis on regrette la disparition de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Tout ça, ce sont des comités ad hoc de l'ONU qui viennent dire ça à propos de la Pologne. Ce sont des documents qui n'ont absolument aucune force contraignante, seulement voilà, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on va tenir compte de ces avis pour condamner. Vous avez d'autres comités qui vont intervenir. Vous avez d'une part donc l'ONU, mais vous avez également des organisations non gouvernementales, ainsi on les appelle-t-on, comme le réseau ASTRA. L'ASTRA, c'est un réseau qui s'occupe de santé et de droit dans le domaine de la reproduction en Europe centrale et orientale, à l'intention du Forum sur la population en Europe. Tout ça, c'est des comités bidules. Et ceci, le réseau ASTRA, en 2004, va dire à Genève que la loi anti-avortement en vigueur en Pologne depuis 1993 a entraîné de nombreuses conséquences négatives sur la santé des femmes. Là encore, vous avez un comité qui intervient dans les officines feutrées des instances internationales sans force contraignante, mais en attendant, la jurisprudence, elle, évolue et tient compte de toute cette pression internationale qui est réelle, même si elle est discrète. Vous avez, dans le même temps, un réseau d'experts indépendants de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. Donc l'Union européenne paye un réseau d'experts qui sont distincts de l'Union européenne et qui, eux aussi, vont se lamenter du fait que des femmes souhaitant avorter en Pologne doivent se rendre à l'étranger. D'autres vont se lamenter, c'est le cas du Centre pour les droits reproductifs qui est nommément repris dans le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce Centre des droits reproductifs va se lamenter du fait qu'en Pologne, un certain nombre d'avortements puissent être légaux, mais que en raison de la pression qui pèse sur les médecins en cas de commission d'un avortement illégal, eh bien, ils hésitent, ces médecins, à accorder un droit d'avortement lorsqu'il devrait exister. Et ils se lamentent également du fait que, en Pologne, il n'y ait pas une procédure extrêmement claire avec un recours prévu auprès de spécialistes désignés et auprès des juridictions pour mettre en œuvre ce droit à l'avortement. Et tout ça, la Cour européenne des droits de l'homme l'a prise en compte en disant c'est malheureux, nous allons indemniser Alicia Tissiak parce qu'elle n'avait pas une parfaite visibilité, en effet elle était myope, une parfaite visibilité des recours qu'elle pouvait avoir. Alors l'affaire est intéressante parce que dans le même jugement, les mêmes juges reconnaissent que les procédures ont été correctement suivies. Mais ils estiment qu'il manque des textes, il manque un encadrement de ce droit pour le constitutionnaliser, pour le sacraliser. Et là, vous voyez la pression que met l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et toutes ces instances internationales mettent une pression formidable pour faire progresser l'avortement, sans dire que l'avortement doit être un droit systématique, mais en imposant quand même son point de vue, un point de vue dont on sait qu'une fois qu'il a qu'il a mis un pied dans la porte, eh bien, il va très loin. Avez-vous peut-être un commentaire là-dessus, David Fonté?
Écoutez, la Pologne est dans le collimateur de l'Union européenne et des instances internationales, parce qu'on voit aujourd'hui que elle a, ce pays prétend interdire aux professeurs qui seraient homosexuels de faire état de cette homosexualité en cours. C'est le droit d'un pays souverain de décider de ce qui doit être fait en matière d'éducation. Et là, les réactions ne se sont pas faites attendre. Il y a des réactions très très virulentes. On menace vraiment la Pologne de ne pas respecter des textes qui garantissent l'égalité de droit, voilà, et qui protégeraient les minorités sexuelles. Non, moi ça me rappelle, cette affaire me rappelle des choses qui sont horribles, qui se passent dans mon pays d'origine, l'Espagne. Ce qu'a invoqué, ce dont vous parliez, les motifs concernant cette jeune femme, c'est tout simplement la souffrance ou le danger de santé mentale qui est invoqué pour procéder à des avortements de 6 mois, 7 mois, 28 semaines, 32 semaines, dans les cliniques de Barcelone, où on sait que des jeunes femmes viennent de toute l'Europe pour stopper, mettre un terme à des grossesses très très avancées, quoi. Voilà. C'est une dérive qu'il faut combattre et il faut s'honorer d'être justement dans le camp des défenseurs de la vie.
Alors au Portugal, où l'on vient de faire passer la loi, alors elle n'est pas encore reconnue, puisqu'il lui faut passer l'obstacle du tribunal constitutionnel. Puis éventuellement, on peut quand même prier pour un veto présidentiel au Portugal. Eh bien au Portugal, il faut savoir que le référendum qui repose sur le vote majoritaire d'une minorité de Portugais, eh bien cette loi vient compléter un dispositif qui existait déjà et qui prévoyait des avortements en cas de risque de santé de santé psychologique pour la mère. Et on sait très bien que cela va très loin. Donc, encore plus que de demander des avortements pour des cas de détresse réelle ou supposée, et dont on connaît la définition élastique, eh bien la pression monte pour faire de l'avortement un droit absolu. Olivier Figueras, vous voulez réagir à cette affaire européenne ?
Oui, je voulais juste dire un mot, parce que il semble que ce ne soit pas très évident pour les Européens en général. Bon, d'abord, je voulais juste me poser la question de savoir si les instances européennes ont donné des arguments à cette jeune mère polonaise qu'elle aurait à soumettre à sa fille pour lui expliquer pourquoi elle recevait de l'argent pour ne l'avoir eu. Ça, c'est une chose qu'apparemment on n'a pas réglée. On la voit pas rentrer à la maison en disant ben, j'ai touché tant parce que tu es là et que j'aurais préféré que tu ne le sois pas. Mais bon. Et je voulais noter, moi, qui regarde quand même très souvent, quotidiennement, tous ces textes de l'Union européenne, quand on regarde ce qui est écrit depuis la Pologne, on constate que c'est un pays catholique. Alors, évidemment, pour les instances européennes, ça ne veut plus dire grand-chose. À Bruxelles, on dit la France est un pays catholique. Oui, en France, on est catholique. Ça veut dire qu'on dit au pape qu'il a rien compris à ce que le catholicisme, qu'on devrait faire ceci, qu'on devrait faire cela, qu'on devrait permettre l'avortement, la pilule, le préservatif, tout ce qu'on veut. En Pologne, quand on dit qu'on est catholique, ça veut dire que c'est l'Église qui décide de ce qu'est le catholicisme, que c'est le pape qui donne les règles et qu'on les suit. Et ça va plus loin. Ça va plus loin. La Pologne est un pays catholique. Ça veut dire que même les non-catholiques, même ceux qui, à la rigueur, revendiquent un passé communiste, ont baigné dans cette ambiance, et que finalement, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce que nous appelons dans la religion catholique contre nature, ne leur paraît pas quelque chose de normal. Et ils le disent. Et quand ils le disent à Bruxelles, on ouvre des grands yeux. On les condamne, on les dénonce, et d'abord parce qu'ils ne savent plus ce que ça veut dire, tout simplement.
Merci Olivier Figueras. Je vois l'heure tourner et j'ai un certain nombre d'annonces à faire. Je vais les faire maintenant avant de clore l'émission avec un dernier sujet, si nous en avons le temps. Première annonce, la librairie Duquesne Diffusion annonce des dédicaces prochaines le vendredi 23 mars, donc c'est très bientôt, de 15h30 à 18h30. L'abbé Grégoire Cellier signera Benoît XVI et les traditionalistes. Le vendredi 24 mars, dans cette même librairie Duquesne Diffusion qui se trouve 27 avenue Duquesne 75 007 Paris, eh bien ce sera Alain Griotret de 14h à 18h pour Ne l'appeler plus jamais France. Le numéro de téléphone 01 45 55 87 55. Anne Brassier nous signale une journée portes ouvertes au centre artisanal de Boulogne-Billancourt. Cela se situe rue Esnault-Pelletier et rue Couchot. Et là, cette journée se déroulera le vendredi 23 mars de 10h à 17h. Et les artisans et leurs apprentis y présenteront leur métier, ils ouvriront leur atelier et montreront leurs travaux. D'autre part, l'association L'Outil en Main de Boulogne-Billancourt exposera les chefs-d'œuvre réalisés par les enfants de 10 à 14 ans au cours de l'année scolaire. Alors vous pouvez venir voir au centre artisanal de Boulogne-Billancourt pour voir toutes ces œuvres et connaître ces métiers qui se perdent et qui sont beaux. Le docteur Dor nous signale une manifestation de SOS Tout Petit. Ce sera le samedi 24 mars, veille du 25 mars, jour de l'Annonciation, et dans beaucoup de pays, notamment beaucoup de pays d'Amérique latine, le jour de la défense de la vie. Et une manifestation priante de SOS Tout Petit à 14h30, place Saint-Michel. Je rappelle que le docteur Dor a rencontré le cardinal Barbarin et que présent de samedi dernier a publié la relation de cet entretien qui mérite d'être lu. Au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, dans Paris 2e, il y aura une conférence de l'abbé de Guillaume de Tannouarn le vendredi 23 mars à 20h. Cela s'intitule « Benoît XVI et l'Eucharistie, une nouvelle orientation ». Le Forum de la France chrétienne, dans le cadre de l'exposition organisée par la galerie Bansard, propose une conférence le vendredi 23 mars à 20h30 par François Bansard. Il est professeur à l'école cathédrale de Paris, agrégé d'histoire, président de l'association culturelle de l'Académie de Paris, et il parlera du mystère de la transfiguration. La galerie Bansard se situe 26 avenue de la Bourdonnais, Paris 7e. Et là, vous avez une participation qui se fait en nature, c'est-à-dire boisson et nourriture terrestre, et il faut appeler monsieur Bansard au 06 07 30 30 98. Tout cela se situe 26 avenue de la Bourdonnais. Alors, nous avons encore une conférence à Saint-Maur-des-Fossés par Jean-Marie Lemenet, président de la Fondation Le Jeune. Ce sera le jeudi 22 mars, donc demain, ou ce soir pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, 22 mars, à 20h30, salle des fêtes, hôtel de ville de Saint-Maur. Et là, vous aurez accès gratuitement au petit fascicule manuel bioéthique des jeunes. C'est une excellente petite publication qui explique très, très, très clairement tout sur la bioéthique et sur les nouvelles techniques de manipulation. Encore une annonce, Radio Courtoisie, Librairie France Livre, pardon, samedi prochain 24 mars 2007, de 15h à 18h30. La Librairie France Livre se situe 6 rue du Petit Pont à Paris 5e. Et là, on aura le plaisir de voir Jean Sevilla pour dédicacer Moralement Correct. Il y a un numéro de téléphone, le 01 43 25 36 67.
Donc Jean Sevilla après la prière et le soutien au docteur Xavier Deur sur la place Saint-Michel, c'est à côté.
Voilà.
Hein.
Il faut. En fait, je crois qu'il y a trop de petites annonces, mais enfin, ceux qui sont intéressés s'y retrouveront et se retrouveront samedi aux côtés du docteur Deur, ça c'est très très important. Le 25 mars, le journal présent fête ses 25 ans. Nous les fêtons à Villepreux, dans la belle maison de Grand Maison. Il reste quelques petites places puisque des gens se sont désistés. Donc si vous souhaitez encore vous joindre à nous le 25 mars à Villepreux, vous appelez le journal présent demain au 01 42 97 51 30 pour savoir s'il reste juste une petite place à 42 €. Ce prix comprend le repas, bien sûr, l'apéritif et puis le plaisir de se voir tous et également un abonnement de 3 mois à présent sur internet d'une valeur de 50 €. Donc concrètement vous gagnez 8 € en venant nous voir. Et vous avez cet abonnement au nouveau site de présent qui sera dévoilé ce jour-là, puisque nous avons amélioré considérablement notre présentation et les fonctionnalités du site www.present.fr. Voilà, je crois que j'ai fait toutes les petites annonces qui s'imposaient. Il nous reste un petit peu de temps. Nous allons peut-être parler un peu des droits de la communauté gay, puisque c'est très à la mode et que les candidats à la présidence se bousculent pour promettre des choses. Richard Haddad, vous vouliez, je crois, intervenir un petit peu là-dessus.
Oui, je constate que là aussi, tout le monde cède à la mode. C'est-à-dire que lorsque les socialistes avaient fait voter le Pax, la droite était contre, et puis c'est à un moment donné, on a parlé d'abstention, etc. Et puis juste après, d'ailleurs, c'était le premier à le faire, c'était Sarkozy, à l'époque déjà. Il n'était pas encore candidat au présidentiel. Je pense qu'il a dû faire quelques sondages et s'est rendu compte que c'est pas politiquement très correct de dire qu'on est contre. Et tout d'un coup, il a dit je comprends, etc. Donc aujourd'hui, il dit qu'il est contre le mariage, mais pour un aménagement du Pax. Autrement dit, pour le mariage, parce que comme il était contre le Pax, il est devenu pour. Il suit un peu le voilà. Donc tous les candidats aujourd'hui
disent on était contre, mais finalement ça existe, on fait avec. Personne. Et il y a ce système en France, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est voté, on a du mal à revenir dessus. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et donc tous disent oui, on est contre, mais maintenant ça existe, faut faire avec, ils existent, etc. Mais ça veut dire que demain on va instaurer le mariage des homosexuels. Ils vont dire que j'étais contre, mais ça existe, on va faire avec. L'adoption, etc. D'ailleurs, on nous dit aujourd'hui aussi, l'adoption de toute façon elle existe. Effectivement, on peut adopter un enfant lorsqu'on est célibataire. Alors ça existe, il y a des homosexuels qui adoptent de cette façon-là. Eh bien, moi je dirais, il faudrait peut-être revoir l'adoption des célibataires. Alors, on n'a pas le droit de poser aux célibataires la question de savoir quelle est son orientation sexuelle. Il faudrait peut-être la poser, cette question.
Il y a quelque chose de tout à fait intéressant que signale l'association Famille et Liberté. Actuellement, un certain nombre d'études circulent pour dire que être élevé par une famille homoparentale, monoparentale ou hétéroparentale, puisqu'on en est là, c'est la même chose. Eh bien, les études existantes à ce sujet sont justement très sujettes à caution, parce que on constate, par exemple, que toutes les études sur le bon développement des enfants au sein des couples homoparentaux sont faites avec des couples témoins, avec des familles témoins, si vous voulez, où il n'y a qu'un seul parent, généralement la mère. Donc, une situation qui en elle-même n'est pas une situation normale. Et il y a de multiples exemples en ce sens, et Famille et Liberté a souhaité faire évaluer justement ces situations et ces études. Est-ce que réellement, statistiquement, ce qui est avancé par les couples homosexuels est valide ? Et pour ce faire, Famille et Liberté a décidé de prendre une solution peut-être de moindre coût en faisant appel à des grandes écoles où il y a des junior business, comme on les appelle, les étudiants qui acceptent des études à faire pour se faire un peu d'argent de poche et puis pour mettre la main à la pâte. Et surprise, deux de ces écoles ont absolument refusé de collaborer et de mener cette étude sur la validité de ce qui est présenté par les couples homosexuels. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils avaient peur de trouver qu'effectivement ces études n'étaient statistiquement pas acceptables. Et leur réponse a été de dire « Nous ne voulons en aucun cas coopérer à une entreprise de discrimination » envers les couples homosexuels. Donc le refus de discrimination va jusqu'à au refus de contrôler la validité de ce qui est avancé.
Dans la réalité, c'est le mot discrimination revient à chaque fois qu'on a envie de bloquer quelque chose. C'est facile. C'est-à-dire que c'est chaque fois que l'on va dans un sens qui n'est pas le leur, et ils vous sortent la pancarte discrimination, comme on en a parlé tout à l'heure, le racisme, etc. Enfin, c'est toujours la même. Ce sont des arguments fallacieux qui consistent à faire taire l'autre.
Voilà. Donc sur cette question du mariage homosexuel et de l'adoption homosexuelle, il faut hélas constater que à la fois Bayrou, Ségolène et Sarko, de diverses manières, les acceptent de fait ou de droit. Nous savons que du côté du Front National, il y a un discours plus courageux. J'ai vu des paroles extrêmement courageuses de Marine Le Pen qui m'ont étonnée, je dois le dire, dans une revue homosexuelle dont je regrette d'avoir fait l'acquisition. Mais il y a quand même le refus de revenir sur le PACS.
C'est malheureux. Il y a aussi les interventions de Philippe de Villiers ces derniers jours aussi qui méritent vraiment d'être soulignées.
Elles sont beaucoup plus claires.
Elles sont beaucoup plus claires et véhémentes.
C'est le seul candidat qui a oralement, en tout cas je ne sais pas dans son programme.
Son programme propose uniquement de revenir sur les avantages fiscaux.
Oralement, il a dit qu'il était contre. Mais cela dit, juste un mot sur la discrimination, parce que j'entends ce mot toute la journée. Discriminé par là, discriminé par ci, c'est tout le temps les autres qui sont. Je peux vous dire que très rapidement, si on veut parler de discrimination, parlons de discrimination des gens qui ne pensent pas comme les autres, qui pensent comme nous, comme l'électeur de base du Front National, etc., qui lui est discriminé. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir on parle des CV anonymes, est-ce que si on met dans son CV qu'on a été un militant du Front National ou un employé du Front National, est-ce qu'on trouve un travail ?
Bonne question, Richard Haddad. Je termine en répondant à une question d'auditeur qui redemande le numéro de téléphone de présence, c'est le 01 42 97 51 30. Et cet auditeur nous signale que plusieurs moteurs de recherche sur le net indiquent des pages interdites quand on cherche présent. Oui, effectivement, je crois que c'est Norton qui a mis cela en place et il faut simplement désactiver le contrôle parental. Ça vous permet d'avoir accès à présent parce que présent est considéré comme un outil ou un site violent. Eh bien, je vous laisse en juger, comme je vous laisse juger de la violence du Centre Charlier, de la violence de Chrétienté Solidarité, que là aussi, vous pouvez aller visiter sur le net et que vous pouvez contacter au 01 40 51 74 07. Tout ça, ce sont d'excellents organes et je remercie Bernard Anthony en cette fin d'émission de me l'avoir confié. Je vous demande de rester fidèle au Libre Journal de Serge de Bekech et de penser également aux petits souliers du Centre Charlier de présent qui ont besoin de vous pour vivre. Merci chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutiez le Libre Journal de la réplique de Bernard Anthony, présenté aujourd'hui par Jeanne Smith.
Berga trollet friade till fagerunger Sven. Hon hade en falskeliger tunga. Hermannelig, troloven i mig. För det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på dem, ej heller betsel ut i munnen. Hermannelig, troloven i mig. För det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej. Om vi viljen eller ej.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h30, tout à l'heure, dans 2 heures, en direct, le Libre Journal de la Nuit dirigé par Paul-Marie Couteau. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 21 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net, je m'y trompe aussi.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver sur les chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, émission hébergée dans le libre journal de Serge de Bekech, avec une émission qui va ressembler à toutes les précédentes et puis on espère à toutes les suivantes également, avec comme toujours trois demi-heures. Une première demi-heure qui sera consacrée au sujet d'actualité, de l'actualité politique, géopolitique européenne. Et puis vous verrez que nous aurons un sujet très centré sur les questions de défense. Une deuxième demi-heure autour de notre invité que nous vous présenterons tout à l'heure, et là cette fois-ci il sera davantage question de pétrole. Et puis une troisième demi-heure comme à l'accoutumée qui sera centrée sur les questions davantage culturelles de l'actualité européenne. Troisième demi-heure animée par Patrick Péel. Autour de moi dans ce studio pour évoquer cette première demi-heure, Xavier Van Lier, de journaliste, Grégoire Gambier, journaliste également, et Olivier Lebrun, le troisième journaliste de la bande, lequel est spécialisé, les auditeurs le savent, dans les questions de défense. Et c'est par vous que nous allons commencer, Olivier, puisque nous avions très brièvement évoqué le mois précédent, les questions de réarmement sur le continent européen, avec l'installation, les velléités d'installation par les États-Unis d'un nouveau système de bouclier antimissiles. Alors depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les États-Unis ne cessent de courir la planète et plus spécialement l'Europe pour expliquer qu'en fait c'est pas dangereux et que ça veut du bien à tout le monde. Les Russes se crispent et sont de plus en plus agacés par la situation. Et puis les derniers en date, les Allemands qui viennent de demander aux Américains de rien faire qui puisse braquer inutilement les Russes et les Européens. Alors d'abord, Olivier Lebrun, de quoi s'agit-il ?
Mais merci Philippe, je crois que vous avez tracé les grandes lignes du problème et je crois qu'il est... Et puis c'est notre émission, c'est notre tropisme géopolitique. Il est utile d'aller voir un peu sur cette histoire d'installation défense antimissile américaine directement dans les pays européens, sur le continent européen. D'abord, quel est le contexte, quels sont les enjeux et quelles peuvent être éventuellement les solutions pour l'Europe pour traiter ce problème. Donc le mouvement qui a été initié par les États-Unis le 21 janvier dernier est le résultat de plusieurs années de négociations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je rappelle les faits. Les États-Unis ont officialisé une demande qui était adressée à la Pologne et à la République tchèque d'installation sur leur sol de bases avancées de leur système global de défense antimissile. Donc un système de défense antimissile, pour le fonctionnement, c'est assez simple, ça se compose de deux parties. Une partie qui s'occupe de l'alerte, c'est-à-dire la surveillance et l'alerte sur le déclenchement, le départ d'un missile qui menace un pays européen, une cible située sur le continent européen ou sur le continent américain. Donc une partie qui est l'alerte et une partie qui est l'interception, c'est-à-dire un missile antimissile qui va détruire la menace avant qu'elle n'atteigne sa cible. Ces composantes de la défense antimissile donc seront installées une station radar de détection en République tchèque et puis 10 systèmes d'interception, on parle d'une dizaine, hein, c'est ce qu'ont dit les Américains, en Pologne. Alors quel est le problème? Le problème c'est d'abord la Russie. Les Russes sont furieux, on a eu des réactions extrêmement violentes du ministre de la Défense Sergueï Ivanov qui s'adresse directement aux États-Unis.
Sergueï Ivanov qui, je vous signale, est devenu vice-premier ministre.
Il n'est plus ministre de la Défense. À l'époque, donc on est en janvier, je pose les bases, il réagit de manière extrêmement violente. En disant quoi? En disant, premièrement, les missiles nord-coréens et iraniens, c'est la menace mise en avant par les États-Unis, ne peuvent pas atteindre l'Europe, pour l'instant, ne peuvent pas atteindre les États-Unis, surtout, et donc l'ennemi réel contre lequel Washington installe ses systèmes est bien la Russie. Donc la Russie se braque, la Russie menace les États-Unis de sortir des discussions qui avaient été entamées dans l'OTAN sur le sujet de la défense antimissile. Bref, on retourne, et c'est l'ensemble des commentaires que vous pouvez lire actuellement dans la presse, à une sorte de période de guerre froide. C'est un peu le retour à 1983. Vous vous souvenez, les remous en Europe suite au lancement officiel par le président Reagan de son initiative de défense stratégique, cette guerre des étoiles dont on parlait à l'époque. Donc les Russes réagissent extrêmement violemment. Du côté européen et français d'abord, qui nous intéresse, les enjeux de la défense antimissile, qu'est-ce que c'est? D'abord on peut dire, est-ce que la menace existe vraiment? Pourquoi est-ce que l'Iran se suiciderait? Vous avez entendu le président Chirac il y a quelques temps là-dessus. Pourquoi est-ce que l'Iran se suiciderait en lançant des missiles sur l'Europe ou sur Israël? En plus, du côté français, nous avons déjà notre dissuasion nucléaire pour nous protéger. Pourquoi investir dans un système de défense antimissile coûteux, un système de défense antimissile qui techniquement, en tout cas, n'est pas encore arrivé à maturité? Pourquoi dépenser des fonds dans ce système qui, en plus, irrite la Russie, un partenaire naturel? Vous connaissez l'importance, et on y revient souvent dans cette émission, des liens que nous devons avoir avec la Russie, qu'il est intéressant d'avoir, en particulier du point de vue énergétique. Ce sont des questions pertinentes, mais le problème dans ce domaine-là, c'est que d'autres y ont répondu à notre place. Les systèmes américains arrivent en Europe. La question n'est pas de savoir, s'ils vont y arriver. Ils y sont, ils arrivent. La réponse de principe de la Pologne et de la République tchèque, ça a été oui, pour se mettre bien, d'une certaine manière, entre guillemets, avec le grand frère transatlantique. Ces systèmes sont là. Les Anglais y participent à ce système de défense antimissile, et les Européens et de l'Est sont d'accord avec le diagnostic qui a été fait par les Américains sur la menace.
Alors, Olivier, Xavier Vanier, on n'a pas l'air d'accord avec tout ce que vous dites.
Lorsque vous le dites, qu'ils sont là, on a l'impression qu'ils sont d'ores et déjà installés. Je ne crois pas que ce soit le cas. Or, dans les deux pays nouveaux Européens concernés, il semblerait qu'il y ait quand même des tensions suscitées jusqu'à l'intérieur des majorités gouvernementales, des oppositions aussi de la part de l'opposition, et puis surtout un massif rejet de la part des opinions publiques concernant la Pologne. Je crois que 51% des Polonais sont opposés à ce système, et seulement 30% y sont favorables, alors même qu'aucun débat public n'a été lancé, et que la façon dont c'était négocié avec la Pologne montre d'ailleurs que le gouvernement polonais, si je comprends, perd toute souveraineté sur le système, donc c'est très reluisant.
On peut imaginer
que cette opposition reprenne le dessus. Enfin, quand je vous écoute, là, j'ai l'impression que c'est déjà fait, que c'est trop tard.
Alors on peut imaginer beaucoup de choses. La réalité, c'est quoi? C'est que la question ne sera pas portée a priori devant l'opinion publique. En tout cas, ça ne sera pas facile pour le gouvernement polonais. Je fais le parallèle avec la décision d'entrer en guerre aux côtés des États-Unis en Irak. Souvenez-vous que la population polonaise n'était pas a priori favorable à cette décision. La Pologne s'est bien engagée aux côtés des États-Unis en Irak. Je crois que pour la Pologne et pour beaucoup des nouveaux entrants dans l'Union, dans l'OTAN, nos voisins européens, la proximité avec les États-Unis d'un point de vue politique, d'un point de vue de défense, prime toute autre considération. Pour l'instant, on est dans un temps où les États-Unis impriment leur rythme à cette partie de l'Europe, et malgré l'opposition d'une partie de la population sur ces questions, je ne crois pas que ça débouche sur une remise en question. En tout cas, pour bien voir le contexte, posons l'hypothèse que ces systèmes vont arriver. On est très près de la concrétisation. Pour l'instant, rien ne s'oppose à leur arrivée. Rien, si vous voulez, de solide. Donc, si ces systèmes...
Oui, posons l'hypothèse, effectivement, sinon on s'arrête de parler, ça sert plus à rien.
Oui.
Patrick Péel. Peut-être une question. Quelle est la position officielle de l'Europe, je veux dire de la communauté européenne, dans cette histoire?
Parce je vais y arriver.
À part l'Allemagne, j'ai pas entendu grand monde parler de ce sujet-là.
Et l'Allemagne, me semble-t-il, c'était exprimée en son nom propre et non pas au nom du Conseil européen qu'elle préside pour quelques mois.
Donc, on a plusieurs options. On va balayer trois options pour l'Europe vis-à-vis de ce problème de défense antimissile, et puis revenir sur chacun des pays. Je crois qu'on pourra le voir à travers des questions. D'abord, je finis de poser le problème. Pour nous, le bouclier américain, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, il est pensé pour les besoins américains. C'est-à-dire qu'il faut penser ce système antimissile comme un système d'alerte avancée qui protège le continent américain et non pas l'Europe. Si vous voulez, vous avez le pendant de l'autre côté du globe, au Japon. Il y a également des éléments du système de défense antimissile américain qui protège le continent américain du côté Pacifique. Ce qui est installé en Europe le protège du côté Atlantique. Donc ce système n'est pas pensé pour les besoins européens, première chose. Deuxième chose, l'Europe a des besoins propres. Il y a une menace balistique qui existe. Il faut effectivement la caractériser, mais elle existe. L'Europe, pour se défendre contre cette menace, a des besoins propres qui ne sont pas forcément ceux des Américains. Donc il lui faut un système propre. Et si l'on ne s'engage pas sur ce sujet, a priori en Europe, si on ne réfléchit pas, si on ne prend pas des décisions, si les Européens ne s'unissent pas, c'est le système américain qui s'imposera en Europe. Donc on a trois options. La première option, c'est que les Américains installent effectivement leur système. Donc tout le monde s'en contente, à commencer par certains pays de l'Est qui accueillent les radars et les intercepteurs et qui prouvent ainsi leur loyauté à l'égard du grand frère transatlantique. Les dirigeants français, dans cette première option, les dirigeants français multiplieraient les grandes déclarations, ne feraient rien. Les Allemands malgré l'activisme actuel d'Angela Merkel, sont tiraillés entre leur loyauté transatlantique d'un côté et leur pacifisme, a priori ils ne feraient rien non plus. Donc première option, les Américains installent leur système. L'avantage c'est quoi? Ça serait que ça ne nous coûterait rien. L'Europe, à peu de frais, aurait un système de défense qui ne serait pas adapté à ses besoins, mais qui existerait sur son territoire. L'inconvénient, c'est que nous n'aurions aucun contrôle sur ces systèmes, et que les pays hôtes de ces systèmes, il faut y penser, la Pologne et la République tchèque, qui n'intéressent pas l'Iran, a priori, eh bien, deviendraient des cibles par destination des pays qui pourraient les menacer. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est quoi? C'est l'Union européenne. Qui nous intéresse, qui correspond davantage à nos besoins et à notre autonomie. Alors, posons l'hypothèse, la France se dresse et quelques autres pays la suivent pour proposer une solution européenne, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union européenne, de l'UE. Il faut trouver des financements, il faut négocier l'installation des systèmes tout en gérant en douceur un dépit américain qui sera immense. L'avantage, c'est quoi, de cette deuxième option? C'est que, à terme, l'Europe dispose d'un système continental qui correspond à ses besoins et qu'elle ne dépend pas des États-Unis. L'inconvénient...
Ce qui voudrait dire que cette option se réalise sans les Anglais.
Cette option se réaliserait sans les Anglais, c'est l'inconvénient. Un, il faut payer. Or, nos budgets de défense en Europe sont exsangues. Et deux, et vous aviez anticipé, effectivement, il faudra convaincre les Anglais, les Européens de l'Est, la nécessité de cette affirmation volontariste de souveraineté. C'est une mission quasi impossible. Il faut le savoir. Tous ces pays préfèrent l'OTAN à l'UE, c'est extrêmement clair, et se méfient viscéralement des positions françaises sur l'Europe puissance. Donc ne rêvons pas, on peut en discuter, mais ne rêvons pas, si le bouclier antimissile gêne un peu aux entournures certains Européens, c'est certain, ce bouclier antimissile américain, mais la France est isolée en Europe sur ces sujets. Donc première option, totalement américaine. Deuxième option, totalement européenne. La troisième option, pour s'en sortir sur ce sujet-là, mettre un peu les choses en perspective. Est-ce qu'il ne serait pas possible de négocier un système d'abord centré sur les besoins européens, mais dans le cadre de l'OTAN? Ce qui permettrait à tout le monde de se mettre autour de la table. On va en discuter. L'avantage, ça serait quoi? C'est que la France y regagne une tribune où ses partenaires européens prendront la peine de l'écouter, ou prendront un temps pour l'écouter, et où elle pourrait... où notre pays pourrait, donc la France, forte de ses atouts industriels, influencer la conception des systèmes antimissiles qui sont prévus. Donc autre avantage, la solution permet à la France de faire revenir la Russie dans le jeu, puisque je vous rappelle que Moscou était déjà engagé sur de telles discussions antimissiles dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. On en avait parlé à notre dernière émission. Ce qui irrite Moscou, c'est d'abord l'unilatéralisme américain dans cette histoire. Moscou aurait préféré discuter de ces questions antimissiles de théâtre et de territoire à l'intérieur du Conseil OTAN-Russie.
Olivier Lebrun, donc si on vous comprend bien, on a le choix entre une hypothèse purement américaine, une hypothèse européenne dont nous avons dit à demi-mot qu'elle était totalement irréaliste, et donc une hypothèse OTAN.
OTAN.
Donc on a le choix entre Washington ou Washington plus les amis de Washington. Xavier Van Lierde.
Oui, moi, la première question que je me pose à propos de ce bouclier antimissile, c'est celui de son utilité. Si vous faites un peu de prospective, est-ce qu'on a besoin d'un tel bouclier antimissile ou pas? Vous avez effleuré la question au début de l'intervention. Moi, ça me semble pas du tout évident qu'on ait besoin de ce genre d'instrument.
Effectivement, c'est la première question à se poser. Quelle est la menace? Quelle est la menace pour l'Europe? Alors, effectivement, que les Américains mettent en avant, on sait bien, la première menace, c'est l'Iran. Alors, ils parlent de deux pays, hein, aujourd'hui. Hein, ils ont l'axe du mal, dont les contours ont été relativement gommés, ils sont flous. Il y a seulement deux points durs qui émergent. C'est un, la Corée du Nord, du côté pacifique, et deux, l'Iran.
Ça ne vous semble pas un peu surdimensionné, ce bouclier antimissile, pour la Corée du Nord et l'Iran?
Et puis là, ce sont les arguments donnés par les Américains, dont tout on sait fait. Très bien que le crédit tout à fait relatif qu'on peut y porter. La question de fond...
D'abord, on va répondre à cette première question.
La vraie question, c'est effectivement que les Européens répondent à ce problème. Qu'est-ce qui menace le continent européen? Moi, je ne crois pas que ce soit l'Iran.
Certes, ni la Corée du Nord, on est d'accord.
Ni la Corée du Nord. La Corée du Nord pour des raisons techniques, c'est certain. La raison, l'Iran pour des raisons simplement a priori de bon sens. Pourquoi commettre un suicide?
Dès lors qu'on fait cette analyse froide et sensée, Contre qui est dirigé ce bouclier antimissile, à votre sens?
Écoutez, je pourrais vous répondre comme Sergueï Ivanov. Non, je crois que tout simplement, les Américains pensent que l'Iran va devenir un problème immense dans les années qui viennent. Ils prennent les devants. Et ce système, je vous le dis, c'est le principe de réalité. Je pense qu'il va s'installer en Europe, que certains Européens, à court terme, ont un intérêt à flatter le grand fer américain, et que les Américains disposeront d'un système d'alerte avancée, tout simplement, qui permettra de défendre leur territoire. Mais il faut réfléchir en termes de profondeur stratégique. Les Américains disposent de plusieurs milliers de kilomètres pour réagir, et ils disposent d'un temps relativement long par rapport à ce dont disposeraient les Européens pour réagir. Ce système est bâti pour les intérêts américains, totalement. Après, on prend en compte la réalité ou non. Il va s'installer en Europe. Quelle est la réponse qu'on peut y faire? Comment est-ce qu'on le tourne à notre avantage? Comment est-ce qu'on le rend européen? Est-ce qu'il est en Europe ou est-ce qu'il est européen? Voilà, c'est la seule question.
Ce que je vous propose, messieurs, pour éviter de faire toute notre première demi-heure sur ces sujets dont on voit bien que on pourrait effectivement en discuter assez longuement. Alors, Xavier Van Lier, comme vous êtes déficitaire en temps de parole sur Olivier Lebrun, vous avez droit à quelques gouttes de sablier.
C'est gentil. Je pense fondamentalement, je ne veux pas m'aligner sur la position russe parce que d'autres sont coutumiers dans cette émission, mais je pense sincèrement que ces bases antimissiles sont dirigées non seulement techniquement contre la Russie et diplomatiquement contre une alliance continentale. Je pense que l'objectif principal de cette initiative n'est pas tant militaire, technique, n'est pas tant d'intercepter des missiles. Je pense que la première mission qui lui est assignée, c'est d'exacerber les relations entre d'un côté les pays d'Europe occidentale et les pays de Russie CEI, pour simplifier. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est de faire tomber un nouveau rideau de fer. C'est une constante de la politique américaine depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, en tout cas depuis sa deuxième réélection, depuis son deuxième mandat, et une constante de la politique américaine depuis bien longtemps déjà. Ces bases antimissiles, à mon avis, sont une façon de s'assurer que définitivement il n'y aura pas de maison commune européenne telle que la souhaitait Gorbatchev et d'autres dirigeants européens. Je pense que ce bouclier antimissile est en fait un missile diplomatique destiné à fractionner le continent européen.
Alors, merci. Pour finir sur ces sujets-là, deux informations que vous aurez vues dans la presse. D'abord, la décision de Tony Blair, et qui a eu besoin pour cela du recours de la majorité conservatrice et non celle de son propre camp de financer de décider le refinancement total de la politique nucléaire américaine en faisant le choix d'une solution technologique, là aussi totalement verrouillée par les Américains. Donc, la Grande-Bretagne, et c'est une confirmation, reste bien sur la logique de la double clé et donc n'est pas une puissance nucléaire indépendante comme on pourrait l'imaginer. Et deuxièmement, c'est de moindre envergure, mais nous en parlons souvent aussi, les lecteurs auront vu l'alliance de DCN et de Thales, et donc voici une entreprise française performante, la direction des constructions navales, les anciens arsenaux militaires qui se retrouvent ainsi avec un certain nombre de moyens pour conquérir marchés et contrats partout sur le globe. On leur souhaite bon vent. Ceci nous ramène en France, puisque la DCN c'est en France, et à la France c'est plutôt l'angle de vue que vous avez, Grégoire Gambier. Vous allez nous parler, c'est un peu de saison, d'élection, de sondage.
Oui, c'est tout à fait de saison, mais ça ne se passe pas en France, et justement, une fois n'est pas coutume, pour rompre l'organisation de ces émissions que vous animez avec le brio que l'on vous connaît, Philippe Christel, je ne vous parlerai pas des derniers résultats électoraux en Europe. Je vous parlerai donc pas de la percée surprise des conservateurs finlandais qui ont fessé le 18 mars dernier, comme vous le savez, lors des élections législatives, le Parti social-démocrate, le parti de coalition nationale est consacré deuxième force politique, donc au coude à coude avec le centre droit, une poussée que personne en Finlande n'avait prévue. Donc je ne vous en parle pas, je vous parle pas non plus d'une autre surprise électorale qui s'est produite de l'autre côté de la Baltique, en Estonie, où tout simplement c'est le parti nationaliste et conservateur Union de Respublika et Pro Patria, vous aurez traduit, qui réalise un très bon score puisqu'il arrive en troisième position avec près de 18% des suffrages exprimés. Il pourrait donc gouverner avec la droite libérale, le parti de la réforme, qui a battu de justesse le parti du centre, donné gagnant lui aussi par les sondages avant le scrutin du 4 mars dernier. Évidemment, tout parallèle avec la situation française est totalement incongru. Donc je ne vous parle pas de ces élections, mais plutôt d'un sondage. Donc cette fois, vous êtes vraiment dans l'actualité, puisqu'on en est encore en France à la période des sondages. Et pour signaler donc aux auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui, à l'occasion de surcroît de la journée internationale contre le racisme, donc d'un sondage qui donne trois chiffres que je livre comme ça à votre sagacité. 30% de Français se déclarent racistes, 48% estiment qu'il y a trop d'immigrés dans le pays, et enfin 54% estiment que ce sont avant tout les personnes d'origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer. Donc ces résultats, évidemment, ne peuvent que faire frémir les démocrates et les républicains sincères. Donc je laisse à votre sagacité l'interprétation de ces chiffres. Révélés, il convient de le souligner quand même par la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Merci Grégoire Gambier. Ces éléments passionnants nous ont permis de recevoir un certain nombre de messages. Et alors, les auditeurs ont réagi sur notre débat précédent. Et alors, de manière assez rigolote, ils sont plutôt d'un seul point de vue, qui n'est pas le point de vue habituel, mais en tout cas qui est plutôt le bon point de vue, vous allez voir. Ne croyez-vous pas, nous dit une auditrice, que ce projet dont vous parlez n'est pas un prétexte pour isoler la Russie afin d'empêcher un rapprochement avec l'Union européenne? En quelque sorte, ce serait un nouveau mur. Quel est le danger russe en Europe pour les Américains? Pourrez-vous nous renseigner là-dessus? Un auditeur nous dit, au Kosovo, les Américains ont construit une immense base militaire dirigée contre la Russie. La volonté d'un bouclier pour protéger l'Europe est en fait un prétexte pour créer un bouclier qui soit de défendre les États-Unis. Et puis, sur la position ambiguë de l'Allemagne, Olivier Lebrun, une auditrice, nous dit qu'elle vous apporte des précisions. Elle lit dans le Herald Tribune de samedi, il a été marqué noir sur blanc que Mme Merkel s'opposait clairement à tout ce qui pourrait créer une tension avec la Russie. Effectivement, je crois que depuis un certain temps, la politique allemande, et c'est peut-être ça le principal héritage de Schröder à Merkel, ne penche plus entre atlantisme et pacifisme, mais que Realpolitik aidant, et vu l'importance des liens économiques entre Russie et Allemagne, je crois que les dirigeants allemands ont des positions beaucoup plus mesurées et beaucoup moins idéologiques qu'il y a une quinzaine d'années.
Oui, enfin, s'ils écoutent du Wagner, ils auront encore envie d'envoyer à la Pologne, donc
ça c'est possible chez les mélomanes.
Je voulais juste apporter une petite clarification ou précision à notre position et à celle de certains auditeurs, c'est que les États-Unis n'ont pas seulement une politique anti-russe, ce qu'ils visent à faire échouer, ce n'est pas la renaissance de la Russie simplement, c'est une alliance continentale entre les pays d'Europe occidentale et la Russie. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis asticotent la Russie, l'humilient ou essayent de l'isoler, ils n'attaquent pas seulement la Russie, ils attaquent l'Europe tout entière. C'est également une politique anti-européenne. Dans les perspectives stratégiques à long terme américaines, ils en sont friands. Ils examinent leurs adversaires ou leurs concurrents à l'aune de plusieurs dizaines d'années. C'est bien l'Europe qui est considérée comme un concurrent sérieux potentiel. La Chine également, mais toujours également l'Europe. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'empêcher le rapprochement entre l'Europe et la Russie. Il ne s'agit pas simplement de défendre la Russie dans cette émission, mais de défendre une union entre l'Europe et la Russie.
Alors, et justement, un auditeur nous dit que c'est un peu en pure perte. Comment pouvez-vous penser qu'il peut y avoir une autre option à cette installation américaine en Europe? Vous semblez oublier que les maîtres de l'Europe et du monde sont les Américains. Ce que veulent les Américains, ils l'auront. Voilà.
Défaitisme.
Oui, c'est du défaitisme, absolument.
Même si visiblement nous partageons certaines opinions.
Mais il faut quand même dans cette histoire voir que l'axe Berlin-Moscou marche bien, et on espère que d'ici un mois et quelques, Paris, qui pour l'instant est un peu en attente vu les prochaines élections, va rejoindre cet axe qui perdure, parce que Berlin et Moscou effectivement maintenant durent beaucoup plus que simplement l'histoire de la guerre en Irak. Et je pense que c'est une très bonne bonne nouvelle pour l'Europe.
Et il y a un troisième partenaire, on en avait eu l'occasion d'en parler, il est beaucoup plus discret, mais quand on regarde les chiffres, il est beaucoup plus pertinent dans l'économie russe, dans les échanges, et même sur la scène diplomatique que la France, c'est l'Italie. Vous avez vu que Vladimir Poutine s'est rendu à Rome il n'y a pas longtemps. Silvio Berlusconi s'était fait fort à l'époque de créer des liens personnels entre lui-même et Vladimir Poutine, donc au plus fort des tensions entre le camp pro-guerre et le camp anti-guerre. Mais aujourd'hui, quand on fait des statistiques sur les investissements étrangers en Russie et sur les échanges commerciaux, eh bien, qu'il l'eût cru, l'Italie est le troisième partenaire, donc juste derrière l'Allemagne. Je rappelle que pour les flux de capitaux, Chypre est très haut dans les classements parce qu'il s'agit de rapatriement de capitaux, mais donc c'est pas totalement homologué. Mais enfin, le deuxième partenaire commercial et industriel européen en Russie, c'est l'Italie. Alors qu'effectivement, c'est pas le pays qui a noué dans les symboles dans le poids en Europe le plus qui a posé le plus d'actes politiques. Mais comme d'habitude, diraient les mauvaises langues, les Français là encore ont parlé beaucoup et malheureusement agi un petit peu moins. Xavier Van Lierde.
Peut-être pour conclure sur cette affaire de bouclier antimissile et essayer de ressentir la façon dont les opinions publiques européennes envisagent les principales menaces auxquelles nous avons à faire face. Il y a eu un sondage en automne dernier dans le Financial Times. Donc on interrogeait les Européens sur ce qu'ils considéraient les principales menaces pour la stabilité du monde et aussi pour la sécurité européenne. Donc les Européens plaçaient en tête de liste des menaces les États-Unis pour 30%, suivait l'Iran, 24%, la Chine, 15%, la Corée du Nord, 8%, quant à la Russie, seuls 2% des Européens considéraient qu'elle était une menace.
Ce sont ceux qui lisent le Figaro.
Donc c'est assez édifiant. Si on devait suivre le ressenti des opinions publiques européennes, ce n'est pas contre les pays de l'axe du mal, ni bien sûr contre la Russie qu'il faudrait se prémunir, mais contre notre allié, entre guillemets, américain.
Bien, Olivier Lebrun, qui vous avez été malmené par nos auditeurs et par nous-mêmes, vous avez encore la parole.
Non, malmené, non, c'est le sujet qui veut ça, c'est un sujet qui
est au centre
de nos préoccupations et qui dit beaucoup de choses sur l'avenir de ce continent. Non, simplement revenir sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est vrai, c'est la présidence de l'Union européenne actuellement et je pense que la question se joue là-bas. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des noms d'oiseaux qui volent de manière très très brutale entre l'aile gauche et l'aile droite de la grande coalition dirigée d'une main de fer par Angela Merkel. Du côté de la CDU CSU, c'est-à-dire à droite les chrétiens démocrates conservateurs, vous avez beaucoup d'atlantistes, vous avez beaucoup de responsables politiques qui sont en faveur d'un partenariat plus étroit avec les États-Unis, qui défendent de manière prudente ce système de défense antimissile en voulant le replacer dans le giron de l'OTAN. Et puis du côté du SPD, hein, des sociaux-démocrates, l'aile gauche de la grande coalition, vous avez aujourd'hui un des responsables du parti qui a pris des positions extrêmement fortes contre les États-Unis, contre ce système de défense antimissile, en stigmatisant un retour à une guerre froide. Donc la ligne de partage se trouve en Allemagne, une fois de plus, et le débat y est brutal, y est plus ouvert également, et on discute des vraies questions. En France, le silence est relativement assourdissant.
Merci Olivier Lebrun, merci à vous deux pour cette fin de première demi-heure et donc nous allons passer très vite à notre seconde demi-heure autour de notre invité.
Bien, nous nous retrouvons, chers auditeurs, pour cette deuxième demi-heure des chroniques de la vieille Europe avec sur Radio Courtoisie, hébergée dans le libre journal de Serge de Bekech. Toujours autour de la table, Grégoire Gambier, Olivier Lebrun, Xavier Van Lierde, Patrick PL et votre serviteur Philippe Christel, puisqu'il paraît que je ne me présente pas souvent au micro, c'est ce que disent les auditeurs. Et nous accueillons aujourd'hui notre invité Jacques Forestier. Jacques Forestier, vous êtes spécialiste dans le transport maritime de pétrole. Et donc aujourd'hui, nous allons décider de consacrer cette demi-heure à cette activité peu connue. Alors on parle beaucoup de pétrole quand il s'agit de parler de... Enfin, dans cette émission en tout cas, on parle des réserves, on parle des oléoducs, on parle des cours du pétrole parfois. Mais il y a un élément important qui déclenche des variations tout à fait significatives, soit sur les cours et puis qui est riche de tensions stratégiques, c'est le transport maritime du pétrole dont vous êtes spécialiste. Et alors, est-ce que peut-être, avant toute discussion sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments chiffrés pour qu'à grosse maille, on se rende compte de la taille de cette activité au travers le vaste monde ?
Bonsoir Philippe, et merci pour votre invitation. Bah écoutez, des chiffres, ça va pas vouloir dire grand-chose si je vous dis qu'il y a 500 VLCC qui naviguent sur les mers...
Bonjour.
Et 350 Suezmax, ça vous dira pas grand chose. Les VLCC sont des navires qui transportent 280 000 à 300 000 tonnes de brut. Les Suezmax transportent 140, 150 000 tonnes. Et ça, il s'agit simplement d'une partie de la flotte, parce qu'après, vous avez le transport de brut qui se fait sur des bateaux un peu plus petits, et ensuite le transport des produits raffinés, qui est un point très important, je crois, et stratégique, et qu'on devra développer ce soir.
Alors, la première, on va donc essayer d'esquisser ensemble quelles sont les tensions ou les bonnes questions qu'il faut se poser au gré de ces échanges et du trafic de maritime de pétrole. Peut-être juste sur un sujet qui n'est pas très géopolitique, mais qui est très lié à l'activité, à l'actualité, pardon. Tout le monde a entendu parler du sujet de l'Erika. On voit bien ce procès qui est en cours et qui consiste à faire payer, à essayer d'incriminer la société Total, parce que tout simplement Total est le plus solvable de tous. Vous qui êtes un professionnel, allez, essayez en quelques minutes de nous expliquer la vraie vie du dossier de l'Erika. Qui a raison, qui a tort? Quel est le vilain dans l'affaire?
Écoutez, pour commencer, je crois qu'il faut expliquer ce qu'était le produit que transportait l'Erika. Parce qu'on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ce fuel est sorti de Dunkerque? Et où allait-il? Pour quelles raisons? Il faut savoir qu'en France, on a un certain nombre de raffineries. Et ces raffineries ne peuvent pas faire autrement que de produire du fuel. On importe du pétrole brut pour avoir de l'essence, pour avoir du diesel, pour avoir du kérosène pour les avions. Et on ne peut pas s'empêcher de produire du fuel, même si des unités de crackers permettent de craquer ce fuel pour reproduire à nouveau de l'essence, du gasoil. Ça ne suffit pas, il reste du fuel, il reste du bitume et des gaz évidemment. Alors, en France, à quoi est utilisé ce fuel essentiellement? Il est utilisé pour produire de l'électricité dans les centrales électriques et il est utilisé comme carburant dans les moteurs de navires de commerce qui utilisent d'ailleurs des moteurs similaires à ceux des centrales électriques. Et en France, on a fait un choix stratégique qui est le choix du nucléaire. Donc on a quasiment aucune centrale électrique qui fonctionne avec du fuel. Donc ce fuel, on ne peut pas l'utiliser. On savait l'utiliser il y a 30 ans, on avait les moyens. Aujourd'hui, on a besoin de l'exporter. Donc il est essentiel pour la France d'exporter ce fuel. Ça, faut que les gens comprennent. Ensuite, ce fuel allait où? Vers l'Italie. L'Italie a fait le choix opposé de la France. L'Italie, il y a quelques années, a voté l'abandon total du nucléaire pour produire son électricité. Et l'Italie était dans les années 90... le plus gros importateur mondial de fuel pour produire son électricité. Donc, on a entendu que ce fuel était cancérigène, qu'il était tout ce qu'on voulait. C'est le même fuel qui est produit par centaines de milliers de tonnes tous les jours et dont on a besoin de se débarrasser. Alors, bon, une bonne nouvelle, Total a annoncé qu'il venait de lancer le projet d'un nouveau système de cracker qui permet à nouveau de de réutiliser ce fuel pour produire plus d'essence et de gasoil. Mais bon, on a quand même besoin d'exporter ce fuel. Alors maintenant, pour en revenir au bateau lui-même, qui était indiscutablement une poubelle, comment savoir à l'avance que c'est une poubelle? C'est très difficile parce que les armateurs sont malins et ils savent dissimuler un certain nombre de choses. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Les choses ont énormément changé et le milieu s'est considérablement assaini. En l'occurrence, on va faire une petite comparaison très très simpliste. Imaginez que vous décidiez de déménager, vous faites appel à un transporteur, à un déménageur, vous lui confiez vos meubles, et vous trouvez que son camion n'a pas l'air terrible, mais bon, il vous confie tous les documents comme quoi il a passé son contrôle technique, et puis il se trouve que pendant le trajet, il vous détruit tous vos meubles. Total est un peu dans la même situation que si on vous accusait, vous, d'avoir finalement détruit ces meubles, alors que vous aviez finalement demandé à quelqu'un de les transporter pour vous. Et je crois qu'on a complètement oublié d'évoquer le droit maritime dans ce dossier, qui est que le transfert de responsabilité se fait au moment où la cargaison monte et est chargée à bord du bateau.
D'accord, donc la première chose que vous dites, c'est qu'à partir du moment où Total confie son matériel, son combustible, sa cargaison à un transporteur et que cette cargaison arrive dans les soutes du bateau en question, la responsabilité est transférée et donc en aucun cas...
Pas dans les soutes, c'était...
Dans les soutes, oui, ouais. Les citernes, ouais. Les soutes c'est dans les avions, oui. Ah bon, tout le monde a compris ce que je voulais dire, hein? Bon. Donc, à partir de ce moment-là, la responsabilité est transférée.
La responsabilité est transférée, tout à fait. Et je crois pas qu'on entende beaucoup parler de ça dans les journaux. Alors, maintenant, on essaye, évidemment, c'est plus complexe de transporter du pétrole que de transporter des meubles. Et évidemment, comme vous l'évoquiez, on est obligé, quelque part, d'étudier ce dossier à fond. Et de voir exactement qui était responsable. Il se trouve que la société de classification, qui était RINA, une société italienne, avait approuvé ce bateau peu de temps avant le transport, et que il y a une petite anecdote qui est que le premier inspecteur que RINA avait envoyé avait rejeté le bateau en disant non, ce bateau il ne doit pas naviguer. Et peu de temps après, ce type-là s'est fait virer et ils ont fait venir un autre inspecteur qui a accepté le bateau. Bon, après, je vous laisse débattre là-dessus.
D'accord, donc on voit bien que la responsabilité de Total pour clore ce sujet ne saurait être engagée.
Oui, justement, une question sur cette réglementation, parce qu'aux États-Unis, dès qu'il y a eu les premiers problèmes avec le pétrole, il y a eu une réglementation sur les doubles coques. Où en est l'Europe à ce niveau-là? Parce qu'on rejette sur Total, mais l'Europe a une réglementation sur les bateaux.
Alors, les choses ont effectivement considérablement changé après...
Après l'Erika.
Mais... faut pas croire, les États-Unis en fait sont en retard sur l'Europe. Ils ont eu le problème de l'Exxon Valdez en 93 et on décide à partir de ce moment-là que tous les navires construits soient double coque. Et tous les navires construits dans le monde entier sont double coque depuis cette époque. Les États-Unis ont continué et continuent à utiliser des navires simple coque pour le transport des produits raffinés. Ce n'est que très récemment et après l'Union européenne, que les États-Unis ont décidé de transporter le pétrole brut et le fuel lourd sur des navires double coque.
D'accord. Olivier Lebrun.
Oui, une petite question. Cette émission s'intéresse à la géopolitique. Nos auditeurs s'intéressent beaucoup à la langue française. Ce fameux cracker qui permet de transformer le fuel, en, si j'ai bien compris, soit en gasoil, soit en essence. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une machine? C'est un solvant? C'est un produit? De quoi s'agit-il?
Là, on parle de haute technologie industrielle. Si vous avez déjà vu une raffinerie, vous verrez que c'est... assez immense et qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et franchement, je suis pas un technicien, donc je peux pas rentrer dans le détail.
C'est un procédé.
Mais c'est un procédé qui est très compliqué et qui implique des investissements très lourds.
D'ailleurs, ça s'écrit CRACUEUR. Donc n'ayez crainte, ce n'est pas du tout un anglicisme.
Donc c'est un mot français.
Bien sûr, c'est un mot wallon à l'origine. Hein.
Je bats ma coulpe.
Rien à voir avec les petits apéritifs que vous grignotez devant,
devant CNN.
Devant CNN.
Devant Friends.
Ce sont les bretzels qui...
Alors, ok, ça c'était pour la parenthèse Erika.
Il y a une autre petite parenthèse.
Allez-y.
Aujourd'hui, c'est la grève, à Fos-Lavera. Oui. Vous avez sans doute entendu parler. Juste pour vous donner quelques chiffres, 23 pétroliers qui attendent à Lavera, c'est environ 30 000 dollars par bateau par jour. On parle en dollars, hein. Je vais faire plaisir aux eurosceptiques. Dans le transport de pétrole, l'euro n'existe pas, on parle exclusivement de dollars. Mais donc cette somme colossale qu'on devra payer à la fin, puisque c'est nous sommes les consommateurs de ce pétrole qui va arriver en France. Cette attente de navires crée également une forte tension sur les marchés, à savoir que tous ces navires qui attendent ne sont plus disponibles pour le transport. Et le marché du transport de pétrole est un marché d'offre et de demande qui est très tendu. Lorsque 23 navires ne sont plus disponibles sur le marché, les taux de fret doublent en Méditerranée. C'est-à-dire que pour un voyage de Syrie sur l'Avera qui coûtait 400 000 dollars la semaine dernière, le même voyage coûte 1 million de dollars aujourd'hui. Et ça va perdurer pendant quelques semaines, le temps que les choses s'assainissent. Donc en fait, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars suite à cette grève, qui continue d'ailleurs.
Alors justement, sur la volatilité des cours, on avait, alors pour le coup on va rebasculer sur le sujet stratégique, en préparant cette émission, vous nous aviez indiqué qu'il y avait un certain nombre de modifications récentes, quand je dis récentes, et à 5-10 ans dans le transport maritime, l'une d'entre elles par exemple était la modification importante et réussie des Américains dans la diversification de leur approvisionnement. Hein. Donc à l'époque, les États-Unis recevaient une partie très importante de leur pétrole des pays du Golfe et du Proche-Orient, et puis pour des raisons évidentes que l'on connaît, ils sont aujourd'hui parvenus à se diversifier de manière très importante. Alors, où aujourd'hui, quels sont les fournisseurs alternatifs ou concurrents de pétrole américains, et donc quels sont les points de fixation ou les points de tension qui peuvent donc avoir des répercussions importantes sur les cours?
Alors, en 2006, pour la première fois dans l'histoire, le Golfe Persique n'est pas devenu le premier approvisionneur des États-Unis en pétrole brut. C'est l'Afrique qui a dépassé le Golfe Persique. L'Afrique étant le Nigeria essentiellement, l'Algérie et un bon nombre de pays de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que malgré toutes les tensions dont on entend parler entre le Venezuela et les États-Unis, le Venezuela est un gros fournisseur de pétrole pour les Américains. Et bon, Chavez a beau dire ce qu'il veut, il est bien content, je pense, de fournir son pétrole aux Américains, son pétrole et ses produits raffinés.
Donc, aujourd'hui l'Afrique, le Venezuela également, quels sont les autres gros fournisseurs des États-Unis?
Alors, bah, écoutez, il y a des petits chiffres intéressants à noter. L'Arabie Saoudite exporte 18% de son brut vers les États-Unis. Les Émirats Arabes Unis, 2%. L'Irak, 55%. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que au moment où les États-Unis ont envahi l'Irak, j'ai vu une étude d'un cabinet américain qui ajoutait au stock stratégique pétrolier américain les réserves irakiennes.
Oui, c'est plus simple de calculer comme ça. Souvent, les rapports cachés en disent bien plus long que ce que peut être dit au quotidien. Olivier Lebrun.
Juste pour rebondir sur l'Irak, dont on connaît la situation sécuritaire actuelle, parmi donc les éléments, les facteurs d'évolution du cours du pétrole transporté hein, par voie maritime, hein, parce que j'ai bien compris que c'était à peu près le sujet. Est-ce que l'insécurité chronique, le développement des zones grises, et notamment dans le sud-est asiatique, avec le retour de la piraterie de grande ampleur, est-ce que ça constitue aussi un facteur facteur d'évolution, de renchérissement des cours, ou c'est davantage absorbé que la grève à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure?
Alors, je vais relativiser les choses. Le transport lui-même est très marginal en termes de coûts par rapport au prix du baril. C'est-à-dire que au pire, le coût du transport va représenter environ 5% du montant de la cargaison. Donc ce n'est pas le transport lui-même qui va impacter sur les prix du pétrole. En revanche, les problèmes dans les zones d'approvisionnement, notamment au Nigeria, lorsque Shell s'est fait attaquer, les installations Shell sont fait attaquer et que 400 000 barils jour ont soudainement disparu de l'offre du marché, le prix du baril est monté d'1,50 $. Donc c'est les tensions sur les sources d'approvisionnement qui créent réellement un problème.
D'accord.
Olivier Lebrun.
Oui, vous nous dites que effectivement les Américains désirent diversifier leurs sources d'approvisionnement. Alors j'avais une information là, George Bush lors de son discours sur l'état de l'Union du 31 janvier dernier a déclaré, donc comme vous nous le dites, vouloir réduire la dépendance des États-Unis au pétrole étranger. Il a fixé un objectif apparemment, donc très officiellement, il veut réduire de 75% la dépendance des États-Unis au pétrole du Moyen-Orient avant 2025. Est-ce que ça vous semble crédible? 75%, oui. c'est énorme.
Je dirais que c'est assez facile de dire ça, parce que en fait le problème des Américains aujourd'hui n'est pas un problème d'approvisionnement en pétrole brut. Ce que les Américains ne disent pas dans ce cas-là, c'est que leur problème à eux, c'est évidemment d'avoir des produits raffinés. Or aujourd'hui, leur capacité de raffinage ne change pas ils utilisent les mêmes raffineries depuis 30 ans. Donc leur volume d'importation en pétrole brut n'augmente pas considérablement. Donc c'est pas réellement un problème pour eux de changer leur zone d'approvisionnement. On produit de plus en plus de pétrole partout, donc ils pourront sans doute sortir plus facilement du Golfe. En revanche, ils vont avoir plus de problèmes à trouver des produits raffinés. Et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui.
Et parce qu'on n'imagine pas qu'ils développent leur capacité de raffinage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investissement, soit dans la rénovation, soit dans la construction de nouvelles capacités de raffinage, n'est pas à l'ordre du jour de la politique américaine.
Il n'y a quasiment aucun projet aux États-Unis, parce que ça demande des investissements sur des années, sur 30, 40, 50 ans, et que vous savez, comme moi, que les Américains ont une vision très très court terme des choses actuellement.
Même avec l'ouragan Katrina qui avait, on s'en souvient, posé d'énormes problèmes dans le golfe du Mexique et mis à mal la capacité de raffinage et de ce point de vue-là, il y avait une prise de conscience aux États-Unis. On avait l'impression qu'il y avait des tensions sur les cours. Les hommes politiques avaient fait des promesses concernant les réserves stratégiques, la remise à niveau des capacités de raffinage. Donc tout ça est resté lettre morte.
Oui, on peut le dire. Les Américains comptent beaucoup sur les nouvelles raffineries qui vont être créées aussi bien dans le Golfe Persique qu'en Chine ou dans d'autres pays du monde. Donc on verra sans doute les Américains être plus dépendants des pays exportateurs de produits raffinés. Une petite anecdote par rapport à l'Iran que vous évoquiez tout à l'heure. Y a-t-il un intérêt autre que celui que vous évoquiez pour les Américains de sortir l'Iran de la scène internationale en utilisant le prétexte du nucléaire? C'est que l'Iran est un gros exportateur de brut, mais qui n'exporte rien vers les États-Unis à cause du problème qu'on connaît. Et l'Iran est un gros importateur de produits raffinés. Curieusement, ils n'ont pas, malgré tout le pétrole qu'ils ont, ils n'ont pas suffisamment de capacité de raffinage et sont obligés d'importer des produits raffinés. Ils font donc concurrence aux Américains.
Vous parlez de pays exportateurs de produits raffinés, c'est vrai qu'on parle d'habitude de produits exportateurs de brut, c'est ce qui est le plus commun dans l'imagination collective. Quels sont les pays exportateurs de produits raffinés?
Alors, figurez-vous que c'est intéressant d'évoquer ce sujet parce que en France, comme vous le savez, nos voitures consomment du diesel à 70%. C'est un choix qui a été fait par l'État il y a quelques années de favoriser la taxe sur le diesel par rapport à la taxe sur l'essence. Donc, aujourd'hui, nous, Français, importons énormément de diesel. Nos raffineries ne permettent pas de fournir la demande. En revanche, nos raffineries fournissent trop d'essence. C'est-à-dire le principe d'une raffinerie, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. indiscutablement, vous aurez forcément de l'essence et du diesel qui sortira. Donc nous, on est aujourd'hui dépendant des pays exportateurs de diesel, donc l'Algérie, la Russie, par l'intermédiaire des pays baltes encore, ou directement, et d'autres pays, évidemment, du globe. Et nous exportons beaucoup de notre essence vers les États-Unis, un exemple.
Donc la France est un fournisseur d'essence pour les États-Unis.
Tout à fait.
Alors ça c'est effectivement.
On les tire. Oui, ça y est, ils sont serrés. Il faut qu'ils arrêtent leur bouclier missile, sinon on coupe tout.
Non, je plaisante.
Oui. Sinon, ce qui est intéressant quand même à l'heure où on se gargarise sur le réchauffement climatique, la multiplication des transports, enfin une réorientation progressive du parc français pour arrêter de produire de l'essence que nous exportons et produire plus de diesel que nous importons serait plus simple.
Surtout que sur les marchés.
Enfin, ce serait la misère évidemment de ceux qui font de la transport
marchés,
de produits raffinés. Mais...
Sur les marchés, l'essence est moins chère que le diesel. C'est pas ce qui est reflété à la pompe.
Oui, c'est un artifice fiscal.
Concernant
l'artifice,
c'est un euphémisme.
Concernant le transport d'énergie par voie maritime, on entend souvent que le transport de gaz est beaucoup plus difficile, qu'elle se fait plus volontiers par gazoduc, mais que les méthaniers, c'est beaucoup plus lourd à mettre en œuvre, ça demande des investissements plus importants.
Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets de méthaniers, beaucoup d'LNG, gaz naturel liquéfié, va être transporté. Il y a énormément de projets dans le monde entier et beaucoup de bateaux en construction. Donc c'est
ne serait-ce qu'en France,
c'est une technologie qui est maîtrisée.
Les seuls projets d'infrastructure, c'est des terminaux méthaniers.
Oui, c'est ça.
Suite Fosse. Il y aura Suite Montoire de Bretagne qui doit être rénové.
Vous avez une certaine visibilité sur ces projets. À quel horizon ils peuvent déboucher? Quels sont les principaux projets?
D'infrastructure?
Oui.
Écoutez, c'est un sujet vraiment auquel je peux pas répondre aujourd'hui, mais
oui, c'est-à-dire que vous faites du transport maritime de pétrole et on vous demande
de parler de la concurrence,
de parler du gaz et des infrastructures terrestres. Alors c'est vrai que c'est un peu côté de la plaque. Et la Chine dans tout ça, parce que j'imagine, alors on dit la Chine vidange le monde, se gorge de pétrole, la Chine forcément, l'arrivée, la montée en puissance de la Chine a forcément perturbé l'ordre établi en matière de transport maritime.
Alors la Chine devient le deuxième plus gros importateur de brut mondial. La Chine devient le deuxième plus gros acheteur de véhicules mondial devant le Japon pour la première fois. Donc indiscutablement un gros consommateur de produits raffinés également. Et il est clair que les niveaux de croissance, de consommation de produits raffinés en Chine sont, pour vous donner un exemple, de environ 45% sur 5 ans en produits raffinés. C'est colossal et donc ils pompent évidemment beaucoup du pétrole mondial. Alors eux-mêmes cherchent, comme les États-Unis, à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ils ont un peu le même problème, ils veulent pas être pieds poings liés avec les pays du Golfe, comme c'est un petit peu le cas actuellement. Mais il y a par exemple un gros projet pour les Chinois d'acheter, un projet c'est même réalisé, c'est le cas actuellement, ils achètent beaucoup de brut au Venezuela, ils achètent beaucoup de brut en Afrique de l'Ouest. Bref, ils font comme les Américains, ils se servent un peu partout et le plus possible. Alors faut savoir que quand on parle de stratégie d'achat de pétrole, c'est pas uniquement des stratégies géopolitiques, c'est aussi des contraintes techniques. Et il y a autant de qualités de brut que de champs pétroliers. Et certaines raffineries ne tournent qu'avec certains bruts. Et donc, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Par exemple, on voit très peu de brut russe aller vers les États-Unis. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils s'aiment pas.
Olivier Lebrun.
Oui, donc on parle de la diversification des approvisionnements pour la Chine. Donc on se retrouve en face de deux géants, de gloutons qui vidangent, comme disait Philippe Christel, le pétrole dans le monde. Donc les États-Unis et la Chine qui se retrouvent en Afrique. Ça se passe, si j'ai bien compris, autour du golfe de Guinée. Bon, il y a effectivement aussi l'Afrique du Nord, mais c'est un peu les deux pôles de production. Alors, la France, notre précaré, l'Afrique, on y est depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du point de vue de ce jeu d'échecs planétaires, pétroliers, est-ce qu'on va pas se retrouver complètement coincé, écrasé entre ces deux géants qui vidangent l'Afrique.
Vous êtes inquiet pour votre siège d'administrateur à Elf Gabon?
Oui. C'est une question intéressante. Est-ce qu'on est encore présent en Afrique? Est-ce qu'on est encore présent en Afrique dans 15 ans, à partir du moment où la ruée chinoise se fait de plus en plus, je crois, évidente?
On est plus en Algérie, déjà, Olivier.
Les Chinois ont beaucoup investi en Afrique en échange, effectivement, d'avoir la possibilité de profiter du pétrole qu'ils fournissent. Les Américains ne sont-ils pas la source de certains problèmes que nous, Français, connaissons en Afrique? Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Et aujourd'hui, sur le marché du pétrole, la France est encore un acteur important en Afrique?
Oui, il y a une présence, des bonnes relations, mais certainement pas un acteur majeur. Ce sont les compagnies pétrolières, en fait, elles-mêmes qui... Donc les compagnies pétrolières, ce sont surtout les sociétés américaines, et puis évidemment Total fait partie du lot, mais pas majoritairement.
Xavier Van Lierde.
Oui, on sort un peu des jeux entre puissances, quoi que ce soit lié. Que pensez-vous du discours sur l'épuisement des ressources pétrolières, leur horizon? Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est absurde?
Écoutez, chaque année, le niveau des réserves mondiales augmente. On s'est creusé de plus en plus profond, on s'est en trouvé dans des nouveaux endroits. Quand le prix du baril atteint un certain niveau, on sait aller le chercher là où c'est plus difficile. Il y a forcément une inquiétude à avoir, mais j'en sais pas plus que vous.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mécanisme est tension sur les prix, renchérissement du prix du pétrole, donc rentabilité des extractions les plus difficiles, donc augmentation des réserves.
Parce qu'on a vu les Canadiens aussi qui commencent à avoir... Voilà. Et qui est un pétrole un peu spécial, je crois.
Avec du sable, enfin...
Avec du sirop d'érable. C'est un pétrole très particulier.
Sable bitumeux de l'Alberta, effectivement, c'est...
Et les sociétés qui exploitent ces gisements ont vu leur cours de bourse augmenter considérablement ces dernières années.
Parce que ça avait été des gisements qui avaient été quasiment abandonnés il y a une dizaine d'années, quoi.
Mais c'est pour les mêmes raisons qu'en France, on redécouvre les mines de charbon.
Oui, on n'a toujours pas trouvé de pétrole, je crois.
Non, mais on a des idées, paraît-il. Une question, Jacques Forestier, sur le parc de véhicules, puisque c'est le mot que vous avez employé. Donc je sais que c'est pas des soutes, mais ça peut être des véhicules quand même. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a donc une accélération des rotations, du transport. Donc forcément, ça génère la création, la construction d'un parc de véhicules de plus en plus important. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas se retrouver partout sur la planète avec des dizaines, des centaines de bateaux sur les bras?
Mais si, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une situation où le parc est insuffisant, mais c'est quelque chose qui a été anticipé déjà depuis quelques années. Donc, beaucoup de navires sont en commande. Alors, quelle est la situation? Il y a quelques années, de nouvelles réglementations ont été prises pour améliorer la qualité des navires. On a voulu, et c'est, je pense, une bonne chose, se débarrasser des navires poubelles. Il faut savoir qu'il n'y en a quasiment plus autour de nos côtes, tant mieux. On les a un peu exportés ailleurs, mais bon.
Il reste le Clémenceau.
Au moment où on a décidé d'imposer les doubles coques, les navires d'un certain âge, etc., et parallèlement que la demande de pétrole et de produits raffinés a augmenté, on s'est retrouvé avec un manque terrible de navires. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour vous donner une idée, un navire qui était commandé, un VLCC, donc ces gros transporteurs de pétrole qui transportent 280 000 tonnes, et qui valait il y a 4 ans 65 millions de dollars pièce, se revendent aujourd'hui 130 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est comme si vous vendiez votre voiture d'occasion deux fois plus cher que le prix neuf. Ça vous laisse imaginer un peu les montants.
C'est valable, hein.
Qui circulent dans ce milieu actuellement. Alors, les armateurs avaient vu le coup venir, donc ils se sont mis à commander énormément de navires. Et il y a environ 30% de la flotte qui va être renouvelée dans les 3 ans à venir. Sachant que l'âge moyen est déjà assez jeune, on peut supposer que d'ici quelques années, il y aura une suroffre de tonnage.
D'accord. Olivier Lebrun, une dernière question pour clore cette demi-heure sur le pétrole.
Non, sur le transport maritime de pétrole, très précisément. Quels sont aujourd'hui les chantiers navals les plus puissants de la planète? Qui produit le plus de navires aujourd'hui dans le monde?
En ce qui concerne les pétroliers, ce sont largement les Coréens qui ont dépassé les Japonais il y a déjà 6 ou 7 ans. Et en deuxième position, se trouvent les Chinois, qui également ont dépassé les Japonais. En Europe, on construit quasiment plus de pétroliers. Très, très peu. Quelques-uns en Allemagne, quelques-uns en Croatie. Mais en France, on a complètement abandonné. Donc ce sont vraiment les principaux chantiers se trouvent en Asie.
Jacques Forestier, merci beaucoup pour nous avoir apporté cette expertise dans les chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. Et nous allons donc, vous restez avec nous si vous le souhaitez, nous allons donc entamer notre troisième demi-heure sur l'actualité culturelle européenne. Pour cette troisième demi-heure dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, émission hébergée dans le libre journal de Serge de Becquet. Et puis mon cher Patrick, puisque je sais que vous êtes un galant homme, je vais vous demander de céder la parole pendant 5 minutes pour toute jeune invitée, enfin pas si jeune que ça quand même, que nous recevons aujourd'hui. Agathe Menot, bonsoir, vous avez 25 ans.
Bonsoir.
Vous êtes étudiante en faculté, vous avez un master 2 de physico-chimie. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très très bien.
On est encore dans le pétrole là.
On reste on a quitté le cracker pour être dans la physique chimie. Et alors l'idée c'est que comme nous l'avions fait dans une précédente émission où nous avions invité un petit gars bien pour nous faire une revue de presse européenne, bon, on vous a demandé de vous livrer au même exercice et donc on vous laisse la parole 5 minutes pour que vous nous disiez ce que vous avez retenu dans une revue de presse à tonalité très européenne. À vous, Agathe.
Alors, l'Europe fêtera le 25 mars prochain l'anniversaire des 50 ans de la signature du traité de Rome. Rappelons que le 25 mars 1957, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 6 pays décidèrent de fonder la CEE, la Communauté économique européenne. Ces 6 pays étaient la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et les Pays-Bas. Alors au départ, cette Europe était économique. Elle s'est ensuite intéressée au domaine politique, social, à l'environnement, à la culture, etc. Aujourd'hui, c'est donc l'heure du bilan avec cette petite revue de presse européenne. Tout d'abord, rapporté par le Nouvel Obs, un sondage indique que seulement un quart des personnes vivant dans les 5 plus grands pays d'Europe pensent que leur vie s'est améliorée depuis que leur pays a rejoint l'Union européenne. Sans surprise, ce sont les Britanniques qui sont les plus eurosceptiques, comme on dit. Quelques 12% seulement pensent que l'Europe leur a bénéficié. Viennent ensuite les Français, avec un peu moins de 20%, les Allemands, les Italiens et les Espagnols, qui sont les plus reconnaissants. Pour 20% des personnes interrogées, l'Europe est d'abord celle du marché commun. Mais pour 20%, c'est une bureaucratie et ils ne sont que 9% à avoir en elle une démocratie. Ensuite, un autre article de Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire français La Vie. L'Europe s'est rarement aimée, dit-il, et si jusqu'ici elle a toujours su se protéger dans le futur, elle l'a fait par à-coups et compromis boiteux de politique de la chaise vide en sommet raté. Ensuite vient un article du journaliste anglais Roger Boys, qui écrit dans le New Statesman que nous nous préoccupons trop de nos frontières extérieures, alors que les divisions internes constituent le véritable sujet d'inquiétude des citoyens dans toute l'Europe. Ces frontières sociales qui ont créé des ghettos d'immigrés, de dangereuses et immenses zones de non-droit. Si l'Union européenne doit imposer sa primauté politique, si elle veut survivre encore 50 ans, elle doit bâtir le principe de solidarité intercommunautaire. Ensuite, venons sur des articles du Monde. D'après Le Monde du 8 mars, les 27 pays européens restent incapables de relancer l'Europe des projets. En effet, cette Europe dynamique a du mal à concrétiser ses projets dans une union encore sonnée par l'échec de la Constitution. Quand elles existent, les propositions bruxelloises sont souvent réduites au plus petit dénominateur commun ou rejetées par les États membres, que ce soit dans les domaines énergétiques, la recherche, la justice et l'immigration. Pour la dépendance énergétique de l'Europe en particulier, les 27 pays veulent doter l'Union européenne d'une véritable politique énergétique susceptible de sécuriser leurs approvisionnements à moindre coût tout en préservant l'environnement. D'après la politologue roumaine Alina Mungiu, la dépendance énergétique de l'Europe pourrait trouver une solution grâce à l'énergie nucléaire. Ces propos sont rapportés par le journal Romania Liberia. Elle dit « À mon avis, une politique énergétique qui s'appuie sur la région instable du Caucase ou qui consiste à s'approvisionner en gaz dans les Balkans et en pétrole dans le Kazakhstan n'offre une véritable solution de remplacement. Les coûts énergétiques et les risques politiques sont élevés et la dépendance par rapport à ces États est considérable. Une politique énergétique valable devrait reposer sur une industrie efficace et sur des ressources qui n'ont pas à traverser un continent entier, comme par exemple le soleil, le vent, l'eau, le bois, qui sont des sources énergétiques locales. Nous devrions également nous pencher plus sérieusement sur l'énergie nucléaire. Elle ajoute, sur ce point, nous devrions prendre des décisions qui soient dans l'esprit du XXIe siècle et non plus celui du XXe siècle. Revenons ensuite au journal Le Monde, sous la plume de Célia Chauffour, qui titre son article « À Varsovie, Angela Merkel défend le destin commun de l'Allemagne et de la Pologne ». En effet, la chancelière allemande était venue pour convaincre que l'Allemagne n'avait pas de visée revancharde sur la Pologne. Dans son discours, elle s'appuyait sur l'enseignement de Jean-Paul II et a plaidé pour une réconciliation entre l'Allemagne et la Pologne, dont les relations se sont ostensiblement détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de la droite conservatrice polonaise.
Alors, Agathe, merci pour cette revue de presse. Alors, vous en avez donné plein d'éclairages de plein de journaux différents. Et alors, pour vous, à 25 ans, vous qui êtes jeune, dans cette émission de très vieux que nous sommes, et alors, vous, c'est quoi l'Europe? C'est l'Europe de Bruxelles? C'est l'Europe de Paris, Berlin, Moscou? C'est une autre Europe? C'est laquelle, votre Europe, à vous?
Mon Europe, c'est plutôt l'Europe des régions. Même si je n'ai pas une région particulière d'origine, c'est celle qui correspond plus à mon état d'esprit, à ma culture transmise par mes parents.
De votre civilisation. Merci beaucoup, Agathe, pour vous être livrée à l'exercice. Et donc, sans plus attendre, on va laisser la parole à un autre petit jeune talentueux qui en veut.
Oh, merci.
Patrick PL, c'est à vous pour la culture.
C'est marrant, moi aussi, je vais citer Le Monde. Vous savez que depuis maintenant, je vais parler cinéma. Alors je sais que ça va être un sujet qui va encore vous agacer, Philippe, mais ça fait maintenant plus d'un an que je vous parle de la sortie de ce fameux film qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle 300. Eh bien, certains autour de cette table, dont vous, mon cher Philippe, qui se sont moqués de mon goût pour cette fresque hollywoodienne, donc je vais vous apporter enfin la preuve irréfutable qu'il faut vous précipiter pour aller voir 300. Je vais vous lire la critique du Monde. C'est un peu notre journal de référence. Alors, je vous rassure, elle est courte. Parce que dans Le Monde d'hier, il y avait un très grand article sur le film, sur un documentaire sur l'IP. Vous vous rappelez pas de ça, cette histoire?
Non, moi j'ai pas la télé, alors.
Non, c'était dans Le Monde.
Hein, ah oui, d'accord.
Le Monde, le journal. Et alors, ils ont fait quand même une petite critique du film, qui va vous prouver, par A plus B, qu'il faut aller voir ce film. Donc, je vais citer l'article du Monde, je vais même le dire complètement. Donc, je cite. Inspiré via une bande dessinée de Frank Miller, du récit de la bataille des thermophiles, qui opposa aux Perses en 480 avant notre ère.
C'est les thermophiles. Il y a le dermophile, mais ça c'est en Inde, c'est le thermophile indien. Et il y a les thermopiles.
C'est incroyable, les gens du Monde ne savent plus lire. Ne savent plus écrire. En 480, avant notre ère, le roi de Sparte, Léonidas, et 300 guerriers, 300 met en œuvre des effets spéciaux numériques qui vont ressembler les images à la conflagration d'un tableau de Jean-Léon Gérôme,
Alors ça, c'est une petite parenthèse. Jean-Léon Gérôme, qui est le peintre pompier par excellence, car c'est à partir d'un de ses tableaux qui montrait un gladiateur. Moi, j'adore ce tableau, qui pouvait faire penser à un casque de pompier. Et le terme pompier est né de ce tableau-là. Mais dans ce cas précis, la critique a voulu montrer qu'il avait de la culture et donc il a cherché sur Internet le nom du peintre, ce qui prouve le sérieux de ses propos. On est quand même au Monde, donc c'est un journal de culture.
Oui, parce que là, vous ne citiez plus le Monde. Oui,
non, je suis en train de préciser le travail journalistique
de Jean-Jérôme du Monde.
Non, ça c'est le peintre. C'est, il faut suivre, mon cher Philippe. Donc, d'un tableau de Jean-Léon Gérôme et d'une couverture du Monde du Muscle. Alors, ce qui doit être sûrement un supplément du Monde, puisque je ne connais pas ce journal. Donc, ces héros gonflés, je continue, hein, ces héros gonflés de partout mettent à mort les nouveau-nés difformes. On n'a pas dû voir le même film. Alors, ils sont blancs, ce qui les distingue des méchants noirs ou jaunes, déguisés en ninja ou en fédaïne. Ceux-ci sont emmenés par un fourbe chef, maquillé et couvert de bijoux, qui a tout l'air de ne pas être hétérosexuel. La bêtise de ce mélange d'anabolisants et de clichés nazifiants ne garantit pas son innocuité. Donc, c'est signé par Thomas Sentinel. Voilà, à mon avis, Philippe, vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, dans le cadre de ma chronique, je voudrais remercier ce Thomas Sentinel. Donc, merci Thomas, car grâce à toi, je pense que je peux te tutoyer, car nous sommes devenus des amis. Mes chers collègues autour de cette table de Radio Courtoisie ne pourront plus contester mon avis sur 300. Car le journal Le Monde est pour nous le symbole, que dis-je, le maître étalon de la médiocrité et de l'ennui culturel. Merci Thomas d'avoir remarqué que dans toute œuvre se cachent le racisme, l'homophobie, la haine, le dégoût, le fascisme, le nazisme et toutes les autres méchancetés de l'univers. Et que malheureusement notre société n'est pas le pays des bisounours. Tu es un vrai résistant de la grande culture française au même titre qu'un Jean Moulin ou un Charles de Gaulle. Cordialement, Patrick PL. Alors PS, j'ai pu remarquer que le gouvernement iranien est du même avis que toi. Il aimerait interdire le film pour la mauvaise vision du peuple perse et que contrairement au film, en Iran, il n'y a pas de guerriers ninja, ni de monstres de 3 mètres de haut et que l'homosexualité est condamnée dans leur pays. Voilà Thomas, je ne t'embête pas trop et je ne te laisse avec tes nouveaux amis iraniens. Voilà, c'était un peu ma chronique cinéma pour commencer.
Non, oui. Je voulais juste apporter une précision, c'était que il n'y a pas que Le Monde qui s'en prenait à ce malheureux film, mais également Le Parisien, puisque dans Le Parisien de ce matin, pendant que je prenais mon...
Ah oui, vous avez chacun vos lectures, oui. Vous êtes bien organisé, hein.
C'est normal, vous comprenez.
Mais Xavier va lire des populaires,
C'est ce que je vois. Et oui, c'est ma façon à moi de faire des sondages. Donc je prenais mon petit noir, café noir. Ensuite, je lis Le Parisien, comme tous les matins. Et là, je découvre en page culture, les 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller voir 300, le film dont vous parliez, Patrick. Il y a donc unanimité. Effectivement, la 5e raison était celle d'un soupçon de crypto-ethno-différentialisme, crypto-racisme dans ce film.
Et alors vous, Grégoire Gambier, qu'avez-vous à nous citer sur 300? Décidément, oui, on va parler de 3 heures.
Le fait est que le film donc, était très attendu, comme l'a rappelé Patrick PL. Il est quand même premier au box-office américain depuis 15 jours, alors que le sujet est quand même particulièrement hermétique quand même pour le public américain
dans les pharmacies
tout à fait et il soulève une polémique dont vous faites l'écho mesuré. Moi je suis allé jusqu'à lire Nord et Clair, mais j'étais en déplacement Patrick Xavier Van Lierd et j'ai vu
la vie du rail, on s'en sort bien,
et j'ai vu cette critique qui mettait en cause le ton pompeux, emphatique et même patriotique du film. C'est dire si c'était intolérable. Grave, intolérable. Alors simplement pour rire un peu, nous on n'a pas encore vu le film puisqu'il est sorti aujourd'hui, sauf hier en avant-première notamment à Quimper, Olivier Lebrun. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas pu y aller. Simplement, donc on ne l'a pas vu. Et la bande dessinée extraordinaire, on en a déjà parlé, mais bon, le film est peut-être pas très bon, mais, donc on ne pourra pas en dire tellement davantage. Simplement pour rebondir sur le mauvais procès qui est fait à ce film, c'est un mauvais procès parce que je pense que la bande dessinée, de toute façon, c'est du graphisme pur, donc le méchant est très méchant et très vilain, et le grec est plutôt musclé et viril parce que c'est lui qui va mourir, donc c'est un peu ça la façon dont est construit.
Ce film n'est pas un récit historique.
C'est pas du tout un récit historique, et simplement pour en rajouter dans lire de nos écrivaillons de salon qui pourront comme ça en rajouter encore sur l'horreur de ce film, simplement un petit passage de la bande dessinée, du coup, où le roi Léonidas, donc, à un moment donné, motive ses troupes avec un discours sur le nouvel âge de raison et de justice qui a commencé en Grèce, parce qu'en fait, c'est quand même une ode à la liberté, c'est très américain. Il y a un jeune soldat qui promet, un jeune soldat lui promet, on est avec vous, sire, jusqu'à la mort. Léonidas répond, je n'ai rien demandé, laisse la démocratie aux Athéniens petits. Ça, c'est de la bonne répartie, et je suis surpris qu'aucun journaliste, fut-il de Nord-Éclair, n'ait trouvé le moyen de dénoncer quand même cette façon assez irrévérencieuse de considérer quand même la démocratie.
Vous voulez vraiment mourir pour la démocratie? Non, pas tout de suite.
Je vous amène,
allez-y, Patrick, emmenez-nous
au théâtre. Pour une très bonne nouvelle, c'est le Théâtre 13, qui est situé boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e, qui joue une pièce de Henrik Ibsen. C'est le dramaturge norvégien, Les Revenants. Alors, soyons clairs, Henrik Ibsen, c'est l'un des plus grands auteurs du théâtre en Europe. Et c'est quand même une très bonne nouvelle que, pour une fois, parce que c'est assez rare de voir une représentation en France d'une de ses pièces. Alors, ce drame qui date de 1881 est loin d'être une pièce à thèse. Il s'agit certainement pas non plus d'une œuvre moraliste. Au contraire, la pièce est pleine d'une insolence dont le propos traverse sans peine les égarements de notre époque. C'est une pièce qui avait été interdite à sa sortie nationale et pourrait l'être encore aujourd'hui, car l'auteur s'insurge contre l'intégrisme religieux, les croyances mortes, les idées d'une fausse morale. Franchement, ces thèmes restent d'actualité. Nous avons une critique virulente d'une bourgeoisie étriquée qui correspond bien à cette Europe fin 19e et qui partira vers une décadence le long de notre 20e. Alors, l'originalité de Ibsen, c'est qu'il ne critique pas ses contemporains comme l'ont fait beaucoup les auteurs français comme Zola ou Victor Hugo dans une sorte de lutte des classes. Il a une vision plus aristocratique des peuples et il condamne cette bourgeoisie menteuse, lâche et n'ayant aucun sens de l'honneur. Il faut savoir qu'Henrik Ibsen aura voyagé pendant 25 ans à travers l'Europe. Il connaît bien cette bourgeoisie d'Europe qui changera profondément les mœurs du vieux continent et aussi de son pays. Dans son introduction à sa pièce, Régis Boyer nous expliquait son intérêt pour les sagas islandaises. Il est vrai que nous pouvons comparer Les Revenants à une saga avec sa morale et sa vérité, sans vouloir en faire une valeur universel. Il est franchement l'incarnation des grands auteurs européens, de Knut Hamsun à Dostoïevski. Ibsen est un auteur qu'il faut lire et voir. Donc, dans le cadre de cette pièce qui est jouée du 6 mars au 16 avril 2007, il y a une exposition « Écrire, c'est voir, Ibsen et notre temps » que vous pourrez voir dans le hall du théâtre, qui est organisé en collaboration avec l'ambassade de Norvège pour célébrer le centenaire de la mort du grand dramaturge. Et puis, c'est aussi une bonne nouvelle. Vous entendrez pendant la pièce la musique du compositeur Philip Glass, que nous aimons beaucoup autour de cette table, car il fait partie de nos génériques. Donc c'est au Théâtre 13, 103 boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e métro glaciaire. Vous avez des représentations quasiment tous les jours, sauf le lundi. Voilà, on peut parler BD, hein?
Oui, mais pas la BD 300, on en a déjà parlé.
Non, on va pas parler de la BD 300, je vais vous parler d'une BD. Si vous allez à Bruxelles, je vous fais voyager dans toute l'Europe, Oslo, Bruxelles. Pour la BD, c'est logique, parce que c'est une rétrospective de l'auteur Greg. Alors, créateur du fameux Achille Talon, c'est au centre belge de la bande dessinée. Hommage pour un auteur trop peu connu par rapport à un Hergé, Franquin ou un Jacob, considéré souvent comme réac dans le bon sens du terme. Une petite parenthèse, c'est pas un hasard s'il illustra quelques couvertures du journal de la France courtoise de notre ami Serge de Beketch, parce que il avait une grande amitié avec Serge, une amitié qu'il n'a jamais reniée, ce qui devient de plus en plus rare chez les artistes, il fallait le souligner. Et Serge lui rendait un bel hommage dans son journal lors de sa mort. Mais Greg est avec Goscinny celui qui fera rentrer la BD dans le monde des adultes, et cette expo montre bien les différentes facettes de cet auteur. Il a souvent été un peu le nègre de la BD, car il participera au scénario des meilleurs Spirou, dessiné par Franquin, et même à un scénario de Tintin. Chose moins connue, il est l'initiateur du fameux 13, dessiné par William Vance, qui était appelé à l'origine Bruno Brasil, que le dessinateur prolongera plus tard avec le scénariste Jean Van Ham. Alors, c'est dommage qu'il soit mort, Greg, parce qu'au moins il aurait pu trouver une fin, parce que 13 est quand même la BD qui ne finit jamais.
Ça finisse au Thermopyle.
Voilà. Donc voici une bonne idée d'aller.
Van Ham non plus, hein, puisqu'il vient de terminer le dernier numéro de Torgal, qu'il fait avec Rosinski, et ça se termine par une non-fin.
Oui, ça doit être une tradition, je sais.
Oui, c'est... Hein,
voilà. Il n'y a pas de fin.
Ça s'appelle du teasing, je ne sais pas comment dire en français.
Une sorte d'éternel retour, quoi. Donc voici une bonne idée d'aller à Bruxelles c'est pour voir ce génie du 9e art. Et bien sûr de relire Achille Talon, qui est pour moi l'une des BD les plus féroces sur notre petit monde médiocre et bourgeois.
Mais parlez pour vous, attendez.
Non, non, c'est vrai, c'est une bonne satire de notre monde
entoure,
médiocre et bourgeois. Où on parle
pas du nôtre.
Non, pas du nôtre. En tout cas, pas celui de Radio Courtoisie, de ses auditeurs. Donc, au centre belge de la bande dessinée, rétrospective Greg, la triple vie d'un génie, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mai 2007 à Bruxelles. Une petite dernière expo, alors elle est à Paris, c'est un peu moins long, c'est l'excellente agence RIA Novosti, dont la moitié des communiqués sont entendus sur cette antenne pendant la première demi-heure, qui consacre une exposition à Dimitri Kostakovitch, à la galerie de l'association Dupont-Neuf, qui est présidée par l'épouse du président français, Bernadette Chirac. Alors cette exposition a été mise sur pied.
On m'a mis pièce jaune.
Si vous écoutez pas, cette exposition a été mise sur pied dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance du grand compositeur qui avait été commémoré en 2006 et elle a connu un grand succès dans les nombreuses villes françaises où elle a été montrée. C'est quelques 50 photos en noir et blanc de Dimitri Kostakovitch montrant le compositeur en compagnie d'autres personnalités universellement connues, notamment le cosmonaute Yuri Gagarin, seront exposées à Paris pendant un mois. Alors je vous rappelle que Dimitri Kostakovitch est le plus grand compositeur russe contemporain, donc le plus grand de l'univers.
Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Avant qu'on se sépare, comme d'habitude, une autre minute culturelle. Olivier Lebrun, vous qui lisez des livres que personne ne lit et s'il n'y a jamais qu'un siècle, qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Je relis...
Paul Morand, vous nous l'avez déjà fait.
Non, je relis T.S. Eliot. Thomas Stern Eliot, donc La Terre Vaine, ses magnifiques poèmes, son amitié avec Ezra Pound, et puis actuellement, la biographie qui lui a été consacrée par Stéphane Giocanti en 2003.
Passionnant, passionnant.
C'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant pour l'atmosphère intellectuelle de l'Europe dans les années 10, 20 et le passage de la modernité à une prise en compte des ravages qu'elle peut exercer sur l'esprit européen justement.
Merci Olivier.
Je vous recommande.
Patrick, un dernier petit hommage.
Oui, alors un petit hommage à nos amis qui sur Internet font un travail fabuleux, c'est radio-courtoisie.auvert-blog.com qui réussissent l'exploit de mettre les références de toutes les émissions de Radio Courtoisie, livres, expositions, musique, invités, et surtout qui arrivent à comprendre tout ce que je raconte parce qu'ils le mettent dès le lendemain. Donc encouragez-les, car même les sites des grandes radios ne sont pas capables de cet exploit. Donc c'est radio-courtoisie.auvert-blog.com. Bravo, et merci.
Merci Patrick PL, merci Xavier Van Lier, Olivier Lebrun et Grégoire Gambier. Merci à nos deux invités, Agathe Menot et Jacques Forestier. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Nous retrouverons au mois d'avril.
Au revoir Paris.
Merci à merci, voilà, et au revoir et à bientôt. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 21 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez des cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change this mantle in 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I'm going to make the money back, you know. I told them. I said to them. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Radio Courtoisie.